Vous êtes sur RTL.
À vous, Jérôme, et à toute l'équipe de nos petits matins. Nous sommes le 9 novembre et le mot d'ordre aujourd'hui est assez clair. Tous à Colombey pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Les 5 candidats LR font le voyage, mais ils ne seront pas seuls puisque le Premier ministre Jean Castex sera lui aussi de la partie. Nous allons y revenir dans nos différentes éditions dans un pays où tout le monde se réclame du gaullisme. Autre événement important, la prise de parole du président de la République ce soir à 20h. On attend bien entendu des informations sur la 5e vague, mais avec le président Macron, toute surprise est toujours possible. Édition spéciale sur RTL de 19h55 à 21h avec Julien Cellier et ses invités. Enfin, l'invité politique de notre matinale, Benjamin Sportouche, reçoit le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Notre ancien Premier ministre fut aussi président de la COP21. On attend donc sa réaction sur la COP26. Quel message envoie-t-il aux dirigeants de la planète pour sauver cette dernière? Rendez-vous à 7h40. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et elle a eu l'inquiétude après la disparition d'une adolescente de 17 ans hier en Mayenne.
Elle n'est pas rentrée hier soir de son footing en forêt. 120 gendarmes sont mobilisés ce matin pour les recherches. Thomas Pesquet va bien. Il nous a même adressé un petit signe de la main à la sortie de la capsule Dragon. Il faut qu'il se réhabitue maintenant à la gravité. On verra ça après 6 mois dans l'espace. Dans ce journal également, faudra-t-il cette 3e dose pour valider le pass sanitaire des plus de 65 ans? Emmanuel Macron va trancher avant de prendre la parole ce soir à 20h. Et puis le syndrome des éoliennes, des habitants ne supportent pas le bruit ou la vue des gigantesques mâts quand ils vivent à proximité. Ils parlent de migraines, d'acouphènes, d'évanouissement même parfois. On fait le point avec la brigade RTL tout à l'heure à 7h15.
La politique avec vous, Olivier Bost.
Le premier débat LR hier soir, de la tenue mais pas de quoi encore trouver leur place et un candidat entre Zemmour et Macron.
Vos explications dès la fin du journal, Olivier.
RTL Matin.
C'est une course contre la montre qui va s'engager en Mayenne. Une jeune fille de 17 ans est donc portée disparue depuis hier soir. L'affaire est jugée inquiétante. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
L'adolescente était partie faire un footing hier en milieu d'après-midi.
Oui, elle est partie vers 16h et c'est son père inquiet de ne pas la voir revenir de son jogging qui a donné l'alerte en fin de journée. Sa fille courait en lisière de la forêt de Bellebranche dans le sud du département de la Mayenne. Il a refait tout son itinéraire avant d'appeler à l'aide. Les gendarmes ont immédiatement qualifié cette disparition d'inquiétante et déployé un dispositif conséquent pour tenter de retrouver la jeune fille. Une cinquantaine de militaires ont été mobilisés dès hier soir, notamment une équipe cynophile avec des chiens renifleurs ainsi qu'un hélicoptère venu de Rennes équipé d'une caméra thermique. Mais les recherches cette nuit n'ont rien donné. Le dispositif va désormais se densifier. 120 militaires vont sillonner la forêt et ses bordures ce matin, avec notamment le soutien d'une brigade fluviale pour sonder les cours d'eau.
Merci beaucoup Guillaume Chiez et on sera en direct tout à l'heure dans le journal de 8h avec notre envoyé spécial sur place aux abords de cette forêt. En bref, aucun lien avec une organisation terroriste n'a pu être établi à ce stade pour le forcené de Cannes, cet Algérien de 37 ans qui a attaqué au couteau 2 policiers hier matin à leur prise de service. Il est toujours hospitalisé mais ses jours ne sont plus en danger. Le parquet antiterroriste à ce stade toujours ne s'est pas saisi de l'enquête.
Il est 7h03, tout va bien pour Thomas Pesquet qui est de retour sur Terre.
Et oui, 4h33 à la seconde près cette nuit et ces images absolument magnifiques en caméra nocturne de la capsule Dragon dans l'atmosphère amortie par 4 immenses parachutes. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
On a suivi toute l'opération avec vous cette nuit. Alors Thomas Pesquet avait le sourire, il a fait un petit signe effectivement, mais on l'a quand même vu sortir sur un brancard. Pourquoi?
Oui, alors ça c'est normal, hein. Ça se passe toujours comme ça, mais rassurez-vous, tout va bien. Parce que évidemment, après 6 mois en apesanteur, le corps a perdu la notion de gravité. Pendant tout son séjour, Thomas ne savait plus ce que c'était que d'être couché ou debout. C'était tout pareil. Son oreille interne va mettre maintenant quelques heures, voire quelques jours à se réhabituer. Et puis même s'il a fait du sport tous les jours, ses muscles se sont affaiblis. Tout va lui sembler lourd. Lors de sa première mission, juste après son atterrissage au Kazakhstan, l'astronaute français avait expliqué que le téléphone qu'on lui tendait pour parler à Emmanuel Macron était épouvantablement lourd. Donc là, il va rentrer avec ses 3 coéquipiers à Houston, à la NASA. Il va subir une batterie d'examen, puis il prendra un avion pour Cologne, en Allemagne. Il retournera au centre des astronautes européens. Là, pendant 3 semaines, ce sera des examens médicaux et puis la remise en forme. Il faut compter un mois pour retrouver la forme d'avant-vol. Et ensuite, Thomas aura ensuite le droit de partir en vacances.
Voilà, un peu de musculation donc au programme pour Thomas Pesquet. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Peut-il y avoir une vraie souffrance psychologique et même des conséquences physiques, comme des migraines par exemple, quand on vit à proximité d'éoliennes? On va faire le point, je vous le disais, avec la brigade RTL tout à l'heure à 7h15. Alors qu'un couple du Tarn a obtenu un dédommagement de 128 000 euros, le couple décrit depuis 6 ans un bruit permanent jusqu'à créer des acouphènes et même parfois des évanouissements. Ils avaient dû même quitter leur domicile tant ils décrivaient des souffrances.
Emmanuel Macron à nouveau doit trancher à l'heure où la cinquième vague de Covid semble menacée.
Oui, faudra-t-il une troisième dose de vaccin pour valider le pass sanitaire des plus de 65 ans? La question va être débattue à nouveau en Conseil de défense avant donc l'intervention ce soir à 20h du président de la République qui va de nouveau, quoi qu'il arrive, rappeler les Français à plus de vigilance. Et on note d'ailleurs ces derniers jours une augmentation également des vaccinations de première dose. C'est le cas par exemple dans ce quartier de l'île Sud où vous vous êtes rendu, Franck Hanson.
Il n'y a plus de file d'attente devant la salle polyvalente de l'île Sud. Dans le box de vaccination, Eliès, un jeune du quartier, s'est enfin décidé.
Allez, on y va. Ça va ?
Franchement, ça fait pas mal, on sent rien. J'ai préféré attendre parce que comme ça, je me suis dit, enfin, au moins, faut que je le fasse pour pouvoir manger dehors, etc. Enfin, pour retrouver une sorte de liberté.
Bon, moi, je l'ai fait et je le poussais depuis un bon bout de temps pour qu'il fasse son vaccin. Comme on entend aussi que ça augmente un petit peu, c'est pesant.
À 22 ans, Mohamed aspire lui aussi à plus de sorties, mais il avait des craintes sur cette injection.
J'avais peur. J'ai entendu comme quoi c'est grave, comme on l'a dit. Ça change pour s'inscrire à la salle de sport, faire des sorties à droite, à gauche.
Au plus près des habitants, ces centres permettent toujours un contact plus direct, de quoi aussi lever certaines réticences, confirme Laurence Tisserand, infirmière référente.
Ce ne sont pas forcément des gens qui sont anti-vaccins mais qui ont peur des effets secondaires parce que circulent encore beaucoup de choses fausses et on lève un peu certains freins. On s'attendait à avoir que de la troisième vaccination et là on sent bien depuis les tests payants, alors ça joue aussi. Nous on a l'impression que ça repart en tout cas.
Et cette campagne sans rendez-vous se poursuit jusqu'en décembre.
Un reportage de Franck Hanson à Lille pour RTL.
Et après la prise de parole du président Macron, nous vous proposons ce sur une édition spéciale sur RTL de 19h55 à 21h avec Julien Cellier et ses invités.
Et le regain épidémique, en tout cas, est européen. Il est fort même en Allemagne ou encore au Danemark, qui a d'ailleurs décidé de son côté de réintroduire le pass sanitaire après presque 2 mois sans restriction.
Une pause et dans un instant, la colère des salariés de Stellantis, ex-Peugeot Citroën, de Vesoul. Les intérimaires ont moins de travail et pour cause, le groupe fait venir ses salariés d'Italie. On verra que ça arrive de plus en plus souvent. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Le groupe Stellantis popularise la notion de travailleurs sans frontières.
Exactement. Exemple à Vesoul, le groupe qui englobe notamment, entre autres, un Peugeot et Citroën, fait venir en ce moment 200 travailleurs italiens pour booster la production.
Ah oui.
Reportage de Yannick Holland sur place.
Michele et sa compagne cherchent désespérément un logement à Vesoul depuis plusieurs jours. Ils travaillent normalement près de Naples, en Italie, pour Stellantis. Ils ont fait 1300 km pour continuer à travailler.
Nous avons un contrat pour 2 mois. Notre usine tourne seulement à 3 ou 4 jours par semaine. Alors ils nous ont demandé si on était volontaire pour venir.
Du volontariat, mais en fait, ces salariés italiens n'ont pas vraiment le choix financièrement. Jean-Paul Guy, délégué CFTC de Stellantis Vesoul.
Le chômage partiel n'est pas celui de la France et les salariés italiens perdent de l'argent tous les mois. Ils arrivent à perdre sur 10 jours la moitié de leur salaire. C'est quand même très conséquent.
Mais avec l'arrivée de ces 200 CDI italiens, ce sont autant d'intérimaires locaux de Vesoul qui ont vu leur travail disparaître, à l'image d'Andrea.
Moi, je vois, j'ai une semaine de trou, là. C'est compliqué pour tout le monde, quoi. Ça fait vivre Vesoul, Peugeot. Donc, si on fait vivre une ville en Italie ou je sais pas où, bah, les Vesouliens, ils crèvent la dalle, quoi.
Et c'est ce que dénoncent les syndicats de Stellantis avec ce système, la création d'une rivalité entre les salariés de toutes les usines européennes du groupe.
Merci Yannick Holland, Stellantis qui rappelle effectivement que les salariés sont volontaires et reçoivent une prime de 100 euros par jour. Embouteillage attendu à Colombelles-les-Deux-Églises aujourd'hui 9 novembre, 51 ans après la mort du général de Gaulle. C'est d'autant plus vrai en année électorale, tout le monde ou presque cherche à s'approprier une part de l'héritage du grand homme. Jean Castex y sera à 9h30, suivront entre autres Anne Hidalgo ou encore les 5 candidats à l'investiture des Républicains au lendemain de leur premier débat débat télévisé qui a été, de l'avis général, plutôt cordial, au grand soulagement visiblement des dirigeants du parti.
7h11, la Pologne s'inquiète à sa frontière avec le Bélarus.
Oui, la situation est tendue, les forces de l'ordre font face à des centaines de migrants qui sont rassemblés et qui tentent de rentrer en Europe. Émilie Beaujard, le pays craint l'escalade.
Oui, 2 à 3000 migrants ont passé la nuit entre les barbelés dans le no man's land qui sépare la Biélorussie et la Pologne. Ils sont majoritairement kurdes, venus d'Irak et de Syrie. Parmi eux, des femmes et des enfants. Ils ont tous été escortés par des militaires biélorusses jusqu'à cette frontière, point de passage vers l'Union européenne. Derrière cette opération, un homme, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, accusé d'organiser depuis des mois une filière d'immigration clandestine vers l'Europe, en affrétant notamment des vols directs entre Bagdad et Minsk. En massant des réfugiés aux portes de l'Europe, il veut en fait obliger les Européens à lever les sanctions le concernant, lui et son entourage. En attendant, des centaines de migrants se retrouvent donc pris au piège, la Pologne refusant de les accueillir et la Biélorussie refusant de les reprendre. Les deux pays ont massé leurs soldats des deux côtés de la frontière.
Merci Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
On termine avec les courses qui ont lieu à Angers.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 14, le 10, le 11, le 5, le 2 et le 12. La dernière minute étant le 5, Caviar.
Oui, ça s'écrit K-A, je le précise.
Caviaré en italien.
Caviaré, absolument. Le journal nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h12, la politique tout de suite avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors vous avez regardé, comme moi d'ailleurs, le premier débat LCI-RTL, le Figaro des candidats Les Républicains. Est-ce qu'il se passe quelque chose à droite,
Olivier? C'est bien toute la question, Yves. Oui. Et laissons d'abord la compétition aux militants LR, à jour de cotisation, à ses plus de 100 000 votants, de faire leur choix le mois prochain. Je ne vais pas départager ce matin les 5 candidats. Il est acquis qu'il n'y en aura qu'un seul, c'est déjà ça. Oui. Mais ça ne suffira pas pour celui ou celle-là pour être au second tour. Ce qui est donc intéressant, c'est de prendre un tout petit peu de champ et de regarder comment les Républicains se dépatouillent de leur position inconfortable, comment ils tentent de se frayer un passage, coincés qu'ils sont entre l'extrême droite d'Éric Zemmour et le centre d'Emmanuel Macron.
Mais alors justement, ont-ils retrouvé un peu d'espace politique hier soir avec ce débat ?
Alors ce n'est pas franchement évident. Nous avons encore une droite qui radote et qui promet surtout de faire ce qu'elle n'a pas fait jusque-là. Chacun joue la gamme des fondamentaux, ils sont tout cela, les promesses d'économie, de réforme de l'État, de suppression de fonctionnaires, de travail qui paye, de baisse d'impôts pour les entreprises, de lutte contre la fraude, de reprise du nucléaire, de peine planchée, d'autorité, d'une immigration contrôlée, rien de neuf sous le soleil, de vieilles recettes même. Un catalogue de propositions bien connu, qui manque un peu de fraîcheur ou de renouveau. Pas de quoi encore donner du souffle à une candidature, de proposer une offre politique singulière. Pour ceux qui attendent un nouveau grand champion de la droite, la soirée d'hier soir n'aura pas été suffisante.
Bon, alors, il reste quand même 3 semaines et quelques débats.
Alors, vous avez raison, mais quand même 2 pistes timides apparaissent et c'est intéressant. Et elles permettront peut-être au LR de se distinguer. De se distinguer d'Éric Zemmour sur l'immigration, avec une approche ferme et bien moins idéologique et théorique surtout que le polémiste. De se distinguer aussi d'Emmanuel Macron, avec un sérieux budgétaire largement entamé ces dernières années. Ouais. Cela fait des angles d'attaque indispensables pour une campagne, mais pas suffisants pour créer une dynamique.
Mais alors justement, une dynamique, c'est bien ça l'enjeu principal de cette compétition chez les LR.
Tout à fait, car personne ne semble encore faire renaître ou rassembler une droite jusqu'ici plurielle. Des fameux gaullistes, tant célébrés, des libéraux, des centristes et des conservateurs. De quoi rassembler des votes en fait bien plus variés qu'aujourd'hui, socialement, idéologiquement, qu'une droite rabougrie ou grignotée de tous les côtés. La droite républicaine n'a pas encore trouvé sa place pour mobiliser des électeurs et être au second tour dans 5 mois et demi.
Merci beaucoup Olivier Bost. Vous pouvez retrouver notre page spéciale présidentielle 2022 ainsi que nos dossiers avec les moments forts du débat d'hier soir sur RTL.fr. Puis je vous rappelle notre édition spéciale avec la prise de parole sur RTL de 19h55 à 21h avec Julien Cellier et ses invités. Vous en ferez partie.
Oui, à ce soir.
À ce soir.
Yves Calvi, RTL Matin.
Et voilà une première judiciaire qui tombe très mal pour la filière éolienne. La cour d'appel de Toulouse a donné raison à un couple de Belges installés dans le Tarn qui se plaignaient de maux de tête et de fatigue alors qu'ils habitaient près de 2 éoliennes. Ils ont obtenu un dédommagement de 128 000 euros de la part des 2 sociétés exploitant le parc. Notre brigade a enquêté. Alors que dit la science? Eh bien c'est la question qu'on vous pose, Virginie Garin, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Finalement, les éoliennes rendent-elles malades?
Alors directement, non. Il y a eu 2 études scientifiques en France, 60 à l'étranger. Aucune n'a établi un lien entre les infrasons, les bruits ou l'effet visuel des pales qui tournent et la santé des riverains. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, n'a rien trouvé. D'ailleurs, 99% des gens qui habitent à côté des parcs éoliens vont bien. En revanche, et c'est le sens de cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, il peut y avoir un effet indirect sur certaines personnes. Un stress de vivre à côté des mâts, une angoisse qui peut entraîner des symptômes.
Mais alors dans ce cas-là, c'est plutôt un effet psychologique.
Oui, la seconde étude en France a été réalisée par l'Académie de médecine. Elle parle du syndrome des éoliennes, des troubles du sommeil, de la fatigue, de la tachycardie liés à l'angoisse. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir des éoliennes. Pour eux, c'est moche, ça fait du bruit, ça peut devenir une obsession. L'Académie parle aussi des réseaux sociaux qui répandent des rumeurs sur les éoliennes et qui finissent par créer de l'angoisse et donc les symptômes qui vont avec.
Bon bah alors, puisqu'on est dans de la névrose, que répond la filière éolienne?
Eh bien, elle ne nie pas du tout le mal-être de ce couple du Tarn, elle le regrette. Après, elle fait remarquer que c'est extrêmement rare et qu'il existe ce que les chercheurs appellent l'effet nocebo. Comme pour les ondes électromagnétiques, vous prenez 2 groupes de personnes. Un réellement exposé à des ondes, l'autre pas du tout, mais vous lui faites croire qu'il l'est. Il y aura autant de maux de tête dans les 2 groupes. C'est un effet psychologique, mais qui est réel. Les gens ont vraiment mal à la tête.
Mais dites-moi, y a d'autres recours en justice pour ce genre de motifs sanitaires psychologiques?
Jusqu'à présent, très peu. Les recours sont souvent faits plutôt pour des raisons écologiques, pour protéger les oiseaux, protéger les paysages. Les plaintes pour raisons sanitaires étaient très rares, mais après cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, les opposants aux éoliennes pourraient s'emparer de ce motif. Ce genre de plainte risque de se multiplier.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Virginie Garin. Dans un instant, RTL Événement, nous allons prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Il a atterri au beau milieu de la nuit, à 4h30 précisément. On va voir ce qu'il attend pour son retour sur Terre.
RTL Événement.
Il était donc 4h33 cette nuit quand notre Thomas Pesquet national et ses 3 coéquipiers ont amerri au large de la Floride. C'est notre RTL Événement ce matin. Bonjour Philippe Perrin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes astronaute et on vous retrouve en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. On est dans quel état quand on arrive, quand on se pose à nouveau sur Terre?
On est très excité parce qu'on a essayé de faire semblant de ne pas l'être pendant tout le retour.
C'est drôle.
Mais oui, parce que c'est ça être professionnel, hein, c'est mettre l'excitation de côté. Oui. Mais l'excitation est juste énorme parce qu'on est très impatient de rentrer. C'est le même phénomène à l'inverse. Quand on est à bord de la station, on fait tout pour rester parce que la seule façon d'endurer finalement 6 mois, mm-hmm. c'est de se dire que la station, c'est sa maison. Et puis à un moment donné, on en a marre de la maison, on veut rentrer. Donc une grande excitation. Et un grand soulagement, je pense aussi.
C'est extraordinaire ce que vous nous dites, parce qu'on se dit tout est dans la tête, mais on a quand même des questions à vous poser sur l'état physique. On est étourdi, on a mal à la tête, on se sent léger, on se sent lourd. Comment réagit votre corps et comment réagit votre cerveau au retour?
Tout est affecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule partie de l'organisme qui n'est pas transformée par le vol. Et des millions d'années d'évolution sur Terre font qu'on n'est pas fait pour vivre en apesanteur. Donc, la première chose, c'est la pression artérielle, mm-hmm. parce que le cœur a été habitué à pomper faiblement, sans gravité. Donc là, il faut réapprendre à pomper beaucoup, notamment dans la phase de rentrée, où on pèse 3 à 4, 5 fois son poids même. Il y a les vertiges, le système vestibulaire, parce qu'on a oublié finalement ce qu'était l'apesanteur. Donc on est soumis à des vertiges. Vous avez également l'immunité, on est bien plus fragile. Donc si vous alliez à l'hôpital en rentrant de l'espace, on vous prendrait pour un grand malade, d'ostéoporose, de sida. En fait, on est complètement déshabitué.
Qu'est-ce qui a changé dans son corps après 6 mois dans la Station Spatiale Internationale? On imagine que 200 jours dans l'espace, ça vous change un homme?
Alors, ça dépend un peu de tout un chacun. Certains sont très soumis à l'ostéoporose, donc la perte osseuse. On peut perdre en acuité visuelle. Ça, c'est plus embêtant parce que c'est irréversible.
Ah oui.
Dans le cas de Thomas, il allait en pleine forme. On voit qu'il avait pris une tête un peu bouffie parce que les fluides remontent en fait en apesanteur au cerveau, puis ils y restent. Donc là, les fluides vont redescendre. Donc il va devoir surtout exercer une activité sportive pour retrouver l'équilibre. Ça va lui prendre près de 3 semaines.
Eh bien, vous avez répondu à ma prochaine question, c'est qu'en gros, une fois sur Terre, on récupère, grâce à un entraînement spécial, une forme de régime aussi?
Oh, pas vraiment, je crois qu'il a le droit de vivre. Il y a un petit régime avant de revenir sur Terre, on mange et on boit très salé, pour faire monter, si vous voulez, la pression sanguine. Il faut qu'il refasse de l'os, donc effectivement, il prendra des laitages, mais rien de très particulier, non.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour la réadaptation ? Peut-être même sur le plan psychologique, même si on sait qu'évidemment, tous ces hommes et ces femmes ont été préparés, sont des champions par définition, sinon ils ne seraient pas sélectionnés pour monter dans l'espace.
Alors, la première chose, c'est de ne pas se faire mal. Vous savez, la colonne vertébrale, par exemple, s'est distendue de près de 5 cm dans le cas de Thomas. Donc on peut faire une hernie discale, on peut faire un accident cardiaque. Donc il faut faire très attention. On les voit quand ils sortent de la capsule, ils sont carrément portés. On ne va pas les laisser marcher tout seuls. L'aspect psychologique, là aussi, c'est très personnel. Ça dépend de tout un chacun.
Oui.
Il faut réapprendre à vivre, retrouver les siens. Vous savez, il y a une différence, c'est que l'astronaute, il a vécu quelque chose. Son épouse ne l'a pas vécu. Donc, il faut remettre tout ça en morceaux. Mmh. Il faut se reconstruire, en fait.
C'est passionnant, tout ce que vous nous avez expliqué. Merci infiniment, RTL Événement, dans les pas de Thomas Pesquet. Merci Philippe Perrin, astronaute. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que l'exposition consacrée au suivi de la mission Alpha de Thomas Pesquet est à voir jusqu'au 2 janvier 2022 à la Cité de l'Espace à Toulouse. Bonne journée à vous, Philippe Perrin. Merci d'avoir été au rendez-vous.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h24, bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre colonne vertébrale va bien.
Va bien.
Voilà, il est content donc de retrouver notre pépite musicale.
Et on redescend sur Terre. Le 9 novembre 1991, il y a donc 30 ans aujourd'hui, Yves Montand nous quittait.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
La bicyclette, un classique bien sûr du répertoire d'Yves Montand, sorti en 1968. Les paroles sont nées d'une commande passée à l'auteur Pierre Barou. On lui avait demandé d'écrire le texte d'un dépliant pour une pub vantant les mérites du vélo. Il s'est alors souvenu de son enfance sur les routes du bocage vendéen quand lui et ses copains étaient amoureux de Paulette, la fille du facteur, et la poursuivait à bicyclette. La dernière version en date de cette chanson vient tout juste d'être dévoilée. On la trouve sur les plateformes de streaming et c'est une version signée Julien Clerc.
Ah bon ?
Oui, Julien Clerc sortira à la fin du mois un album surprise dans lequel il interprétera les grandes chansons des artistes qui l'ont inspiré. Yves Montand en fait partie. Voici sa reprise inédite, c'est notre pépite du jour. Julien Clerc chante La bicyclette et puis Paulette.
On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant.
L'hommage de Julien Clerc à Yves Montand. On trouvera cette version donc dans l'album que Julien publiera le 26 novembre prochain. Il a choisi d'appeler ce disque Les Jours Heureux. Au programme, ces versions de Boom, Dis quand reviendras-tu, Mon manège à moi, Je reviens te chercher, de Gilbert Bécaud, son parrain dans le métier, ou encore Formi formidable. C'est d'ailleurs la disparition de Charles Aznavour qui lui a donné l'idée de cet hommage à ses pairs. Un concept qui se prolongera sur scène puisque Les Jours Heureux, c'est aussi le nom de sa prochaine tournée. Et chaque soir, Julien chantera ses classiques à lui, mais aussi du Barbara, du Trenet, Brel, Ferré, Piaf et Yves Montand.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain et à tout moment sur l'appli RTL.
À demain.
Dans un instant, notre météo, Louis Baudin et nos grosses têtes.
Yves Calvi, RTL
Matin.
RTL Matin,
Yves Calvi. Nous allons retrouver tout de suite nos grosses têtes qui, elles, ont retrouvé Gad Elmaleh.
Ah, on est ravis de retrouver Gad Elmaleh.
Ah ben merci, moi aussi.
Qui nous avait manqué depuis longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez tout le monde. Julie Leclerc, ça vous dit quelque chose?
Très, très bien. Et puis, je suis ému par ce début, justement. J'ai expliqué comment ça se passait, parler dans un micro, tout ça.
Voilà, bah, là, ça va aller, là.
Merci, Fernand. Je suis très, très heureux de la voir. Il y a d'autres personnes moins heureuses. Enfin, ce n'est pas que je ne suis pas heureux, c'est que je les vois. Et puis, c'est assez facile de les voir parce que c'est des gens. Et puis, ils viennent beaucoup à l'émission. Et puis, il y a des gens qui se font rares. Bon, on aime mieux. Voilà. Et puis, voilà. Et Julie, c'est vrai que
Monsieur Plaza, vous voulez parler de Monsieur Plaza?
Non, il parlait de moi, laissez-le faire.
Plaza, c'est facile. On peut le... Enfin, tout le monde a son numéro. Enfin, c'est pas. C'est... Plaza, c'est l'anti-star. Alors, il fait le mec qui est proche des gens. Il n'est pas proche des gens. Il est juste.
Proche des clients.
Eh bien, nous, on est clients de toute l'équipe et on les retrouve dès 15h30 sur RTL. Alors, notre météo, Louis Badin.
Oui, ben c'est un peu comme hier, avec des températures qui baissent encore d'un cran. Hein. Les gelées sont fréquentes, moins 4 à Aurillac, moins 3 à Guéret, moins 2 à Luxeuil, à Romorantin, à Nevers, moins 1 à Rodez. On est souvent entre moins 4 et 4 degrés hein, seulement ce matin. 4 degrés dans Paris intramuros. Oui, ben, vous avez dû voir la différence ce matin avec votre scooter. Et cet après-midi, eh bien, on ne dépassera plus les 11 degrés dans la plupart des régions. Ce qui veut dire qu'à Paris, par exemple, on restera bloqué sous les 10 degrés. Oui. C'est pas arrivé encore. Non. Donc voilà, on descend d'un cran. On sera entre 13 et 16 degrés en Bretagne et Normandie, 16 à 20 degrés près de la Méditerranée. En revanche, côté ciel, c'est comme hier. Les brumes, brouillards devraient se lever assez vite. Donc le soleil va s'imposer, sauf près de la Manche. Il restera un peu plus de nuages. Et puis surtout sur la Corse, où on aura encore de l'instabilité avec des nuages, de la pluie et un vent assez fort, notamment sur le nord et le sud de l'île.
La fraîcheur s'installe gentiment. Merci beaucoup Louis Baudin. Merci à vous de nous être fidèles. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 9 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Sa dernière allocution solennelle, c'était en juillet pour annoncer la mise en place du pass sanitaire. En plein rebond de l'épidémie, Emmanuel Macron est de retour ce soir face aux Français. Cette fois, il sera surtout question de la troisième dose de vaccin. Pour l'heure, moins de la moitié de la population éligible a reçu son rappel. Il pourrait devenir obligatoire, William Galibert.
Oui, et s'il veut rester cohérent avec ses choix de l'été dernier, étendre le pass au maximum pour pousser à la vaccination, alors le président devrait dire « Oui, il la faudra cette troisième dose pour les plus de 65 ans pour qu'ils puissent conserver leur pass. » Mais cette décision pose des problèmes de respect du secret médical notamment, et ça fait partie des points qui seront abordés ce matin à l'Élysée. Si jamais c'est bien ce choix-là qui est validé, alors un système technique serait mis en place d'après nos informations. Les passes, les QR codes auraient désormais des dates de péremption. Il faudrait donc prouver qu'on a eu le bon nombre de doses pour qu'ils soient toujours valides. Mais le sanitaire ne sera pas le seul sujet de l'allocution de ce soir. Emmanuel Macron va prendre le temps de dire que la reprise est là, que les chiffres sont bons, qu'il ne faut pas l'oublier et que la réforme des retraites devra se faire, pas tout de suite parce que le virus est trop présent, mais dans les mois qui viennent, avec forcément la présidentielle à l'horizon.
William Galibert du service politique d'RTL. Et l'actualité politique, c'est aussi ce rendez-vous aujourd'hui à Colombey-les-Deux-Églises pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Les 5 candidats au Congrès des Républicains vont s'y retrouver derrière leur président Christian Jacob. Anne Hidalgo y sera présente aussi en tant que maire de Paris. Et puis on parlait hier de la proposition d'Arnaud Montebourg qui souhaite bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants expulsés. Proposition très mal reçue dans son propre camp, si bien que le candidat de la remontada a dû faire une rétropédala hier soir.
Je me suis fait engueuler par des gens que j'aime. Moi aussi, j'ai des origines dans l'immigration, comme beaucoup de Français. Et j'ai compris que je m'étais mal exprimé. C'est au sens où je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible. La cible, ce sont les États. On peut reconnaître une erreur.
Vous faites ce soir.
Je pense que je ne dirais pas une erreur. Je dirais que c'est une incompréhension.
Arnaud Montebourg sur la chaîne LCP.
Il est 7h33, après le choc du rapport Sauvé, l'Église va payer.
La conférence des évêques s'est engagée hier à indemniser les victimes de pédophilie sans recourir aux dons des fidèles. Pour cela, elle compte puiser dans ses biens immobiliers. Mais quel est exactement le patrimoine de l'Église, Julien Fautra ?
Eh bien, c'est très difficile d'y voir clair. Déjà parce qu'il faudra connaître l'inventaire, ou plutôt les 104 inventaires diocèse par diocèse. Tous sont indépendants. Il n'y a pas de document national, du moins pas de document officiel, qui centralise les biens de l'Église. Certains diocèses sont riches, d'autres moins. Rodez, par exemple. Rodez regorge de biens immobiliers. Il y a des années, des siècles, les Aveyronnais montés à Paris ont légué leur fortune au diocèse de leur région d'origine. Chacun va passer en revue ses réserves. Les plus riches sont Paris, Versailles et Lyon, où l'immobilier est cher. A l'inverse, il y a quelques années, Tours et Dijon ont dû déjà combler leur déficit en piochant dans ce qu'on appelle une réserve de sécurité, que chaque diocèse sanctuarise ce qu'on peut vendre quand les frais de fonctionnement sont trop importants. L'Église envisage aussi d'emprunter, emprunter puisqu'il faut du temps pour vendre. Or, certaines victimes pourraient, pense l'Église, pourraient demander des indemnisations rapidement.
Précision RTL de Julien Fautra. 120 gendarmes vont être mobilisés ce matin pour tenter de retrouver une jeune fille de 17 ans disparue depuis hier après-midi en Mayenne. Elle était partie courir près de la forêt de Bellebranche. On a retrouvé dans le bois des écouteurs tachés de sang. Une décision qui fait débat chez Stellantis. 200 ouvriers italiens viennent d'arriver à l'usine de Vesoul pour remplacer des intérimaires français. Leur usine à Naples est à l'arrêt à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Ça ne passe pas très bien auprès des syndicats. Écoutez, Cédric Fischer, le délégué CGT.
On a quand même un groupe qui est riche à milliards. Il oblige des travailleurs d'Italie de faire 1300 km pour venir bosser à Vesoul, pas forcément dans les meilleures conditions d'hébergement. On a des Polonais de Glivis qui viennent dans le Nord, on a des Espagnols. Et demain, peut-être que nous, gens de Vesoul ou de Sochaux, on va devoir faire 1300 km. Ils nous transforment en nomades de l'automobile pour assurer un maximum de profit.
Propos recueillis pour RTL par Yannick Collant. Si vous devez prendre le train du côté de Toulouse, attention, le trafic est très perturbé ce matin dans toute la région à cause d'une panne d'alimentation sur le réseau SNCF. Et puis Thomas Pesquet, de retour sur Terre.
Splashdown confirmed.
Et oui, après 200 jours en orbite, l'astronaute français et ses trois coéquipiers de l'ISS ont atterri à 4h33 précisément au large de la Floride. On vous fait vivre ça en fil rouge depuis ce matin. Ils ont été récupérés par un bateau. On a vu Thomas Pesquet pousse en l'air pour dire que tout va bien.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, avec des femmes qui ne se cachent plus précisément. Elles sont 8 à témoigner dans Libération contre Patrick Poivre d'Arvor.
Rendez-vous pris à 8h40 avec vous, Isabelle Choquet. Dans un instant, c'est François Langlais qui sera avec nous. Il va revenir sur nos macarons La Durée qui sont partis se faire fabriquer en Suisse. Mais vous allez voir, en fait, tout cela nous parle aussi de réindustrialisation. C'est le mystère de cette chronique.
RTL Matin, Yves Calvi.
Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le journal Helvète, autrement dit Suisse Bilan, a confirmé une information du magazine Complément d'enquête. Les macarons La Durée ne sont plus fabriqués en France, mais en Suisse, justement.
Oui, c'est une icône de la gastronomie française qui a ainsi quitté l'Hexagone. Vous savez, ces gâteaux parfumés à double coque, produits de luxe et à ce titre vendus diablement cher, sortent désormais d'une usine située dans le district de la Gruyère, près de Fribourg. Explication officielle, la qualité exceptionnelle de l'air suisse. Bon, on peut penser que la qualité exceptionnelle de la fiscalité suisse n'a pas été tout à fait étrangère à la décision d'implanter une usine là-bas, ainsi que le souhait de rationaliser la production mondiale de La Durée après une année 2020 désastreuse à cause du Covid.
Bon, il y a du très bon lait, de la très bonne crème dans la région. Alors, est-ce que ça veut dire que l'hémorragie industrielle française se poursuit, François ?
Pas forcément. Un économiste réputé, Olivier Passet de Xerfi, soulignait tout récemment que la base productive française est probablement en train de se reconstituer lentement. Si l'on en croit ces analyses, l'affaire La Durée serait non pas l'arbre qui cache la forêt, mais le macaron qui cache la boîte à gâteaux.
Ah bah c'est agréable, mais comment se fait-il qu'il soit à ce point optimiste ?
Il constate d'abord une pause dans la désindustrialisation, avec la stabilisation de la part de l'industrie dans le PIB et de celle de l'emploi industriel. La France compte 3 100 000 emplois industriels. Bon, alors certes, ça n'est qu'une petite partie de nos presque 20 millions d'emplois marchands, c'est-à-dire ceux du secteur privé, mais c'est un nombre qui n'a plus bougé depuis 2014, alors que les années précédentes avaient vu une dégringolade régulière.
Oui.
En 1998, par exemple, il y avait 4 millions d'emplois industriels.
Et au-delà de l'industrie, François ?
Justement, il y a encore plus de raisons d'être positif, nous dit Passet, parce que les services, transport, ingénierie, information, communication, sont encore plus dynamiques. Et ils expliquent en large part le dynamisme de l'emploi marchand, justement, en France. Un emploi qui représentait 77,4% de l'emploi total en France à la veille du premier confinement, et qui a gagné en proportion au détriment de l'emploi public.
Bah alors, l'avocat du diable vous dirait que sur les secteurs innovants, la France est quand même encore un nain comparé aux États-Unis.
Non, c'est vrai, mais le nain grandit quand même. En témoigne le dynamisme de la création d'entreprises en France. Xerfi parle même d'éveil entrepreneurial. Et puis le bond du capital investissement, c'est-à-dire du financement des projets d'entreprises innovantes. Sur les 6 premiers mois de l'année en cours, ce qu'on appelle les levées de fonds, c'est-à-dire justement l'argent investi dans les start-up, ont atteint 4,8 milliards, c'est-à-dire plus que sur l'ensemble de l'année 2020, oui, qui était déjà une bonne année, malgré l'épidémie.
Bon, on doit tout cela à la politique économique du gouvernement et à Emmanuel Macron ?
Écoutez, en partie oui, selon Olivier Passet, mais l'économiste date le point de retournement à 2014.
Ah oui.
C'est-à-dire au changement de politique économique de François Hollande, vous vous souvenez, avec le fameux pacte de compétitivité qui avait fait baisser le coût du travail, puis avec les lois El Khomri qui ont dépoussiéré le code du travail. Ça donne la mesure du temps qu'il faut pour que les effets d'une politique de compétitivité commencent à se voir dans la réalité.
Et bien, tout cela est en tout cas passionnant à observer et on compte sur vous pour continuer de le faire. Merci François Langlais et à demain en espérant que votre petit nuage dans la gorge va passer. Il est 7h41. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel est accusé de toutes parts en cette pré-campagne. La réponse de son président dans un instant.
A tout de suite avec Laurent Fabius sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être sur RTL. Alors avant d'en venir à la COP26, dont vous avez été l'un des artisans dans le temps, quand vous présidiez la COP21, un mot sur les attaques qui pleuvent contre le Conseil constitutionnel, l'institution que vous présidez en cette pré-campagne présidentielle. Pour Éric Zemmour, qui est bientôt candidat, il faut tout simplement, je vous le cite, s'en débarrasser, Laurent Fabius, parce qu'il empêche d'agir. Que répondez-vous
oui,
à ce genre de...
Oui, c'est un jugement nuancé. J'explique, je ne vais pas rentrer dans la campagne présidentielle, ce n'est pas du tout mon rôle. Mais il faut bien comprendre cela. Il y a deux types de démocratie. Il y a les démocraties que j'appellerais minimum, où les parlementaires peuvent décider absolument tout ce qu'ils veulent, sans aucune limite, sans aucun encadrement. Et puis il y a les démocraties, parce qu'il faut les appeler avancées ou supérieures, où les parlementaires, bien sûr, peuvent décider tout ce qu'ils veulent, mais à l'intérieur de règles qui sont les principes constitutionnels, qui sont vraiment les démocraties avancées. C'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui passe aux États-Unis, etc. Et la France, grâce au général de Gaulle, dont on parle beaucoup aujourd'hui, à juste titre, a décidé d'appartenir à cette deuxième catégorie de démocratie avancée. C'est-à-dire que les parlementaires, bien évidemment, font la loi, mais il y a la possibilité de vérifier si la loi est conforme à la Constitution. Et il faut qu'il y ait un organisme qui dise oui ou non, la loi est conforme à la Constitution. C'est le Conseil constitutionnel. Et vous avez remarqué que, par exemple, pour être concret, en Pologne ou en Hongrie, lorsque des régimes attaquent la démocratie, la première attaque qu'ils portent, c'est sur, contre la Cour constitutionnelle, contre le Conseil constitutionnel et les juges.
Donc c'est une attaque contre la démocratie quand Éric Zemmour dit ça, ou quand Arnaud Montebourg dit au Grand Jury dimanche, c'est une institution fatiguée de politiques retraitées. Ce sont des attaques contre la démocratie.
C'est surtout une série d'amabilités et de contre-vérités. Mais je n'irai pas plus loin, car maintenant j'appartiens à la catégorie des sages. Je ne fais pas de politique.
Mais ça vous inquiète ou pas, vous, quand vous entendez cela, Laurent Fabius? Est-ce que vous dites ça risque d'affaiblir notre régime?
Parce qu'il y a, je crois, du bon sens chez les Français et qu'ils savent bien, ils comprennent bien qu'il faut être respecté un certain nombre de règles. Je vais vous prendre un exemple. Mmh. Aujourd'hui même, nous sommes saisis, d'ailleurs, par quasiment tous les groupes du Parlement, Assemblée et Sénat, de recours contre une loi qui vient d'intervenir sur la vigilance sanitaire. Bon, d'abord, je remarque que à peu près tous les groupes nous ont saisis. Mmh. Bien. Donc ça veut dire que quand même, ils reconnaissent notre autorité. Et nous allons trancher, ce sera fait aujourd'hui même, des questions comme est-ce qu'il est possible de prolonger jusqu'au mois de juillet des textes qui étaient prévus devoir finir jusque dans les jours qui viennent, ou bien, une question très concrète, est-ce que les directeurs d'école peuvent avoir accès aux dossiers sanitaires des enfants? On voit bien quels sont les principes. D'un côté, il faut protéger la santé. De l'autre, il y a le respect de la vie privée.
Donc ce genre de critique ne vous atteint pas, Laurent Fabius?
C'est pas moi personnellement,
enfin,
je suis
votre institution.
En cause, mais je pense que dans toutes les démocraties avancées, il est utile que une institution veille à ce que on respecte les grands principes du droit qui sont dans la Constitution.
Et est-ce qu'elle doit être réformée? Peut-être cette institution.
Il peut y avoir bien sûr des réformes, ça, il y a toujours des
possibilités. Le Conseil constitutionnel, je veux dire, est-ce que...
Oui, j'ai bien compris. Il peut toujours y avoir telle ou telle réforme. Par exemple, il y a une réforme, mais qui demande d'être inscrite dans une révision constitutionnelle. Les anciens présidents de la République n'ont pas du tout à siéger au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, aucun n'y siège, de fait. Mais dans le texte, il était prévu qu'ils y siègent.
Et par exemple, vous savez, vous avez, on va en venir au climat, mais certains disent que vous, qui est un défenseur du climat, qui œuvrait contre le réchauffement climatique, disent eh bien, le président du Conseil constitutionnel, il est jugé parti dans cette affaire.
Je fais bien attention, vous avez raison de souligner cette question, je fais bien attention à différencier. Il est vrai que j'ai été l'un des artisans principaux de la fameuse COP 21, qui a défini comment on pouvait lutter contre le réchauffement climatique. Et maintenant, je préside le Conseil constitutionnel. Mmh. Donc, je ne m'exprime jamais sur ce qui se passe en France, car nous sommes susceptibles d'être saisis de telle ou telle loi sur le climat.
Donc toutes ces attaques dont on vient de parler, ce n'est pas une menace contre la Constitution pour vous? Ou est-ce que vous n'y voyez pas une menace? Que dit Éric Zemmour, que dit Arnaud Montebourg, que dit Marine Le Pen?
Dans leur esprit, il s'agit sans doute de modifier l'état de droit. Mais,
de modifier l'état de droit.
Oui, mais il faut faire bien attention. Autant... évidemment, le Parlement peut modifier l'état du droit, autant l'état de droit, et je ne joue pas sur les mots, on voit bien la différence, c'est fondamental, c'est-à-dire ce qui protège les citoyens, ce qui protège nos libertés.
Mais vous savez aussi, par exemple, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en juillet dernier, n'avait pas caché son agacement qu'une partie de sa loi antiterrorisme soit censurée, où là, certains se sont dit, le Conseil constitutionnel va trop loin, il ne nous protège pas.
Je dis souvent que nous ne rendons pas des services, nous rendons des décisions. Ce n'est pas la même chose.
Bon. Alors vous avez été, on l'a dit, le principal artisan de l'accord de Paris. Venons-en donc à la COP26. On est en pleine COP26 et c'est un échec, a dit Greta Thunberg, que tout le monde connaît. Du blabla, dit-elle. Est-ce que c'est encore un rendez-vous mondial raté pour la planète?
On ne le sait pas encore. J'étais effectivement la semaine dernière invité par l'ONU qui organise tout cela et j'ai rencontré les principaux chefs de délégation chinois, américains, français, indiens, le président de la COP26, le britannique Alok Sharma et d'autres responsables. Et nous avons discuté. On ne peut pas encore se prononcer car la COP, ça dure 2 semaines. Et c'est simplement la fin de la semaine qu'on connaîtra les résultats.
Mais ça vous inquiète ce que vous voyez en l'état des choses? Je vous prends un exemple. La France ne montre pas l'exemple. Laurent Fabius, elle refuse de signer l'arrêt du financement des énergies fossiles à l'étranger. Emmanuel Macron s'y était engagé en 2019. La France ne le fait pas.
Je vous ai dit que je ne me prononçais pas sur la France, mais effectivement, cette position a été remarquée. Moi, j'ai dit quels étaient les 3 objectifs de la COP26. La COP21, en 2015, sous ma présidence, a vraiment donné le la. C'est-à-dire que cette COP, on s'en souvient, a dit voilà ce qu'il faut faire pour ne pas dépasser plus de 2 degrés d'augmentation de la température, voire, si possible, 1,5 degré. Et en ont suivi, évidemment, on ne lit pas tous les jours les actes de la COP 21, mais 29 articles de décision et 140 paragraphes. Bon, maintenant, il s'agit d'appliquer la COP21. Ouais. Et il y aura 3 critères. Vous me demandez si ce sera un succès ou pas. On verra à la fin de la semaine. Premier critère, assez technique, il y a un règlement d'application, ce qu'on appelle en anglais « rulebook », de la COP21 qui n'a pas encore été adopté. Il faut, 6 ans après, qu'on l'adopte. Premier point. Deuxième point, très important, les finances.
Nous avons 100 milliards.
Voilà, et nous avons promis,
pas le cas
non
les
pas même à Paris, mais à Copenhague en 2009, c'est-à-dire il y a 12 ans, que les pays riches, dont nous faisons partie, donneraient, accorderaient aux pays pauvres au moins 100 milliards de dollars par an pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous ne sommes pas capables, 12 années après, de fournir ces 100 milliards de dollars. J'espère très fermement que ces sommes seront trouvées
dès cette année. Mais vous êtes optimiste à l'heure où nous parlons ce matin sur les conclusions ou plutôt pas? À vous entendre, plutôt pas, Laurent Fabius.
Je suis optimiste sur ce que je vous ai dit sur le règlement d'application, pas encore sur les finances. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'ambition. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sur la ligne des plus de degrés, voire, a fortiori, sur la ligne des 1,5 degré. Nous sommes sur la ligne des 2,7 degrés, ce qui signifie, on oublie de le dire, que pour des régions comme les nôtres, ça veut dire 4 degrés.
Donc c'est très grave, même si toutes les promesses ont été remplies, eh bien on ne pourrait pas limiter le réchauffement.
Pourquoi ? Parce que
on court à la catastrophe.
Le combien est évidemment décisif, mais le comment est très important. Or, on a eu jusqu'ici des annonces, mais qui ne sont pas suffisamment argumentés. Et donc, beaucoup de mes anciens collègues disent « Attention, parce qu'on est en train de dire des choses aux gens qui ne se réaliseront pas. » Raison de plus pour rappeler que cette question est probablement la question la plus
plus importantes pour l'humanité. Non pas seulement la planète continuera d'exister, mais l'humanité est menacée, en particulier dans les régions et les populations les plus pauvres. C'est pourquoi j'espère de tout mon cœur qu'il va y avoir un effort en avant d'agir, de concrétiser les engagements de Paris à Glasgow.
Merci beaucoup Laurent Fabius. Bonne
Merci
journée à vous.
Merci beaucoup et bonne journée aussi.
Laurent Fabius qui nous rappelle que c'est bien l'humanité qui est menacée avant toute décision prise par la COP26 et notamment d'application de la COP21. Laurent Fabius, vous restez avec nous si vous le voulez bien puisque vous êtes dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière, tout de rose vêtu.
Bonjour, je ne savais pas.
J'ai peut-être la solution au réchauffement climatique, mais si vous me laissez pas le temps,
L'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour cher Philippe, bonjour, Laurent bonjour. Fabius est resté pour votre chronique et je vous sens flatté.
Ah ben pardon, Laurent Fabius c'est quand même un parcours. Il a été Premier ministre à 37 ans, alors je m'avance peut-être, mais je crois que personne autour de cette table ne sera Premier ministre à 37 ans, à mon avis c'est râpé. Moi à 37 ans j'étais sur Rire et Chanson, donc on n'est pas sur la même success story, vous voyez le niveau.
C'est pas la même chose. Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel, rappelons-le.
Bah, tant pis, on va rester quand même sur la tête.
Éric Zemmour a récemment déclaré vouloir démanteler le bloc constitutionnel. Peu de gens savent ce que c'est. Hein.
Vos questions sont quand même assez débiles.
Merci Anne, je n'osais pas le dire à Yves Calvi. Je commence à vous connaître Yves, hein, et vous mettez sur le dos de nos chers auditeurs vos coupables lacunes. vous ne savez pas ce que c'est le bloc constitutionnel. Écoutez, je prends la technique lunette. Écoutez, c'est très simple. Le bloc constitutionnel, c'est l'ensemble des textes et principes constitutionnels que les lois doivent respecter comme la Constitution de 58, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la formule de Constitution de 46 et depuis 2004, la Charte de l'environnement. Voilà, dans ta gueule France Inter. Vous voyez que c'est quand même pas compliqué d'être pro et de copier une page Wikipédia.
Bon, alors quand même un mot de la COP26. Vous la sentez comment?
Écoutez, j'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. Vous le disiez, c'est la COP26. 26 ans que c'est la même question. Hein. Comment stopper le réchauffement climatique? Ça fait 26 ans qu'on rate l'examen alors qu'on connaît le sujet à l'avance. Quand on rate le bac 26 fois de suite, je regrette, mais c'est qu'on n'est pas bon. Alors les pays comme la Chine ou la Russie qui vont pas se font engueuler. Les pays qui vont en avion se font engueuler aussi. On va quand même pas reprocher à Laurent Fabius de pas être allé à Glasgow en paddle. Bon. Il est passé chez Decathlon, alors, c'était fermé. On peut pas tout faire.
On passe à autre chose. Hier avait lieu le débat des Républicains. Cette soirée était diffusée sur LCI. Vous avez regardé?
Oh, un régal. Un Everest de joute intellectuelle. Non, sérieux, il y a quatre débats de prévus, c'est quatre de trop. Un plouf-plouf ou un chifoumi aurait été suffisant pour déterminer qui est le vainqueur. Hein. Vous savez, je trouve que David Pujadas, il a été très bon. Très très bon, David. Il a quand même réussi à poser la question à Philippe Juvin. Votre première décision quand vous serez élu président, sans rigoler, il a fait... Alors, Rutel Krief se pinçait la cuisse pour Paris, elle lui disait, t'es con, arrête, il va y croire après.
Les Républicains revendiquent l'héritage du général de Gaulle, et bien justement aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès, de la disparition du général.
Alors, ça fait 51 ans que les Républicains, Éric Zemmour, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Duc Ognan-Ognan, font parler un mort. De Gaulle, c'est le tataillé de la droite. Pour nos auditeurs de moins de 70 ans, c'est Jean-Marc et Jeff Panaclop. Alors, ça, c'est une citation de Jean-Marc, c'est pas de Gaulle, hein, qu'on ne confonde pas. Salut, il est trouvé.
Sans transition, Thomas Pesquet est donc revenu sur Terre. Il a quitté l'ISS avec, je le cite, une certaine nostalgie.
Eh bien, ça va faire plaisir à sa femme. 6 mois sans elle, mais même pas content de rentrer, le gars. Alors, l'astronaute est moins affectueux que le Labrador, parce qu'il fait la fête en remuant la queue, lui. Thomas Pesquet a réussi son créneau, il fait avec la navette spatiale. Sans la direction assistée, c'est pas évident, il faut un sacré coup de volant. Cela dit, on va se calmer un peu sur Thomas Pesquet. L'exploit est pas dingue non plus. Il était juste à 400 km de nous, finalement.
Oui.
C'est comme s'il était à Clermont-Ferrand, sauf que c'est en hauteur. Donc arrêtons de nous extasier sur un gars qui était à Clermont-Ferrand, s'il vous plaît.
Le retour sur Terre a quand même été retardé à cause de la météo.
Comme quoi, Louis Bonin est plus fort que Thomas Pesquet. C'est Loulou qui décide quand la navette descend. Louis Bonin qui me confiait hors antenne, il nous a saoulés avec ses photos, monsieur parfait. C'est vrai que vu de l'espace, tout se ressemble, tout est beau. Même Sochaux, c'est beau de l'espace. Puis Toto, il a quand même garé son énorme navette en plastoc au milieu de l'océan, en pleine COP26. Oui. Aucun respect pour le travail de Laurent Fabius.
Bon, écoutez, ce soir, Emmanuel Macron va prendre la parole.
Ça sent le retour des emmerdes. Macron fait son comeback, comme à bas. Et c'est aussi le retour du Covid. Ce petit branleur, il a pris 3 mois de vacances et il revient tout bronzé, le Covid. Bref, ici, le Covid repart. Il fait nuit à 16h30. Zemmour est au plus haut dans les sondages. L'essence flambe. Il reste 3 débats des Républicains. Macron va nous engueuler à 20h. Je ne sais pas si Thomas Pesquet a bien fait de rentrer, moi, finalement.
L'œil hein de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 et en direct. Et quand vous le voulez, sur le site RTL.fr. Bonne journée à vous, Laurent Fabius.
Merci, bonne journée.
Notre météo avec vous, Louis Bodin.
Oui, avec du temps sec et plutôt ensoleillé aujourd'hui. Alors, il y a des brumes, des brouillards ce matin, mais tout ça devrait finir par se dissiper un peu comme hier pour laisser le soleil s'imposer. Il restera plus de nuages quand même près de la Manche et puis surtout de l'instabilité encore près de la Méditerranée, entre la Côte d'Azur et la Corse. Un peu plus de nuages, voire quelques averses. Le vent d'est soufflera fort, toujours entre la Côte d'Azur et la Corse. Un peu de mistral et tramontane également autour du golfe du Lion. Et les températures encore en baisse après ces gelées matinales fréquentes. 8 à 11 degrés, pas plus cet après-midi dans la plupart des régions. 13 à 16 en Bretagne et Normandie. Et 16 à 20 degrés quand même près de la Méditerranée.
Merci Louis. Nous sommes de retour sur Terre avec un petit peu de retard. Il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, l'inquiétude en Mayenne après la disparition d'une jeune fille de 17 ans.
Elle était partie courir en forêt hier après-midi. 120 gendarmes sont mobilisés pour tenter de la retrouver. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le voyage aura duré un peu plus de 8 heures. Thomas Pesquet enfin de retour sur Terre après 6 mois passés dans les étoiles. Indemnisés parce qu'ils vivent à côté d'une éolienne, une première en France. Il leur aura fallu 6 ans de procédure pour obtenir un dédommagement. Et puis aux États-Unis, l'histoire incroyable de ces deux couples dont les embryons ont été échangés par erreur lors d'une fécondation in vitro. Ils ont élevé durant des mois un enfant qui n'était pas le leur.
Dès la fin du journal, votre surf Cyprien Sini.
Embouteillage tragique à Colombey. Imaginez un peu si le général de Gaulle voyait ça.
À 8h20, notre invité sera le directeur général du CIC, la banque qui propose des mesures choc pour faciliter l'obtention des prêts immobiliers. Et puis ce sera la face cachée de l'actu. Avec vous Isabelle Choquet, on parlera de quoi?
On parlera de ces 8 femmes qui témoignent dans Libération contre Patrick Poivre d'Arvor.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Ses parents sont sans nouvelles depuis hier après-midi. Il était 16h lorsque cet adolescent de 17 ans qui vit près de Château-Gontier en Mayenne décide de partir courir en forêt. Elle n'a depuis donné aucun signe de vie. Un dispositif de recherche a dès hier soir été lancé. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes sur place à l'entrée de cette forêt de belles branches dont l'accès a été bouclé. Toute la nuit, les gendarmes ont tenté de retrouver la trace de cette jeune fille.
Oui, très vite, un important dispositif est déployé. Une cinquantaine de militaires en tout et notamment une équipe cynophile avec des chiens renifleurs. Pourquoi ? Parce que cette forêt est très dense, très étendue avec des petits chemins un peu partout. Autre moyen déployé, un hélicoptère venu de Rennes équipé d'une caméra thermique pour tenter de retrouver la trace d'une chaleur corporelle. Ça n'a pas suffi, c'est pourquoi ce dispositif va être renforcé. 120 militaires ce matin grâce à l'aide des départements limitrophes et l'arrivée d'une brigade fluviale pour sonder les cours d'eau. Il y a quelques étangs aussi dans cette forêt dont l'accès est encore bloqué par une voiture de gendarmerie qui est devant moi au milieu de la chaussée.
Vincent, selon nos confrères du Parisien ce matin, le père de l'adolescente a retrouvé sur le parcours qu'effectue habituellement sa fille quelques affaires lui appartenant et ce pour pourrait être un indice important, d'autant que la jeune fille n'a pas le profil d'une fugueuse.
Non, et j'ai discuté tout à l'heure avec des voisins, une connaissance même du lycée, et tous me décrivent une jeune fille de 17 ans sans histoire, très attachée à ses parents et à sa famille, pas du tout le profil d'une fugueuse. Ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que le chemin qu'elle a emprunté derrière chez elle pour aller courir, entrer dans cette forêt de belles branches, est une route où les voitures ne font pas vraiment attention à leur vitesse. En tout cas, les recherches se poursuivent puisque d'autres véhicules de gendarmerie viennent d'arriver sur place.
Merci Vincent Serrano depuis la Mayenne pour RTL.
Il était précisément 14h33 ce matin lorsque la capsule Dragon s'est posée en mer au large des côtes de la Floride.
À bord Thomas Pesquet et ses 3 collègues, un retour sur Terre qui signe donc la fin d'un long voyage de 6 mois. Avec nous depuis 4h30, notre spécialiste des étoiles, Sophie Jousselin. Sophie, ce voyage-retour a été reporté 3 fois, mais au final, ils sont là et tout s'est bien passé.
Un amérissage parfait, pile à l'heure et par une météo clémente. Thomas Pesquet est sorti le dernier de la capsule, une heure après le plongeon dans l'océan. Il a fait plusieurs signes, les pouces levés pour indiquer que tout allait bien. Malgré tout, le Français, comme ses 3 coéquipiers, a été porté sur un brancard. Les astronautes, après plus de 6 mois en apesanteur, sont sujets au mal de terre, mettent quelques heures, voire quelques jours à remarcher normalement. Sur le bateau qui a récupéré les 4 astronautes, ils ont été vus par un médecin. Actuellement, ils sont en vol pour Houston, à la NASA, où ils auront droit à une batterie d'examen. Et la journée ne sera pas terminée pour Thomas Pesquet, qui rentrera ce soir au Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne. Pendant 3 semaines, on va le scruter sous toutes les coutures, lui faire du sport. Il devrait récupérer sa forme d'avant-vol. en un mois environ. Pardon.
Merci beaucoup Sophie Josselin.
Emmanuel Macron s'exprimera donc ce soir alors que la menace d'une nouvelle vague de l'épidémie de Covid continue d'inquiéter les autorités.
Le chef de l'État qui pourrait cette fois imposer une troisième dose de vaccin pour les publics les plus fragiles. Vous pourrez suivre cette allocution à 20h sur RTL, édition spéciale à partir de 19h55 autour de Julien Cellier. La dernière intervention du chef de l'État remonte au 12 juillet dernier. Il avait alors annoncé l'instauration du pass sanitaire.
Et ce pass sanitaire qui justement semble de moins en moins contrôlé.
C'est pourtant la loi. Avant de pénétrer dans un lieu public, dans un bar, dans un restaurant, alors nous avons cherché à comprendre pourquoi dans les faits le pass n'est plus un critère pour entrer quelque part. C'est l'enquête ce matin de la brigade RTL. Et c'est vous, Nathan Bocard, qui avez mené l'expérience ce week-end dans plusieurs bars de la capitale, quartier Châtelet, connu pour être l'un des plus animés.
Oui, alors au début de ma tournée, les serveurs me demandent systématiquement mon pass.
Merci à vous.
Mais plus la soirée avance, moins je suis contrôlé. Et même quand j'essaye...
Vous voulez mon pass sanitaire ?
On me répond d'un hochement de tête, non, pas besoin. Bilan de la soirée, sur 10 bars et restaurants de toute taille, 5 n'ont pas contrôlé mon pass, la moitié donc. Et selon ce groupe d'amis qui sort d'un bar, les contrôles sont parfois encore moins fréquents.
Moi, je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas été contrôlée.
En faisant beaucoup de bars et beaucoup de restos.
En faisant beaucoup de bars et beaucoup de restos, ouais.
Si on devait faire une moyenne, en gros, un bar sur combien vous contrôle ?
Un sur trois, je dirais.
Une situation qui paraissait impensable quand le pass sanitaire a été imposé il y a maintenant 3 mois.
Alors justement, comment expliquer que les restaurateurs prennent aujourd'hui moins la peine de vérifier ce pass ?
Eh bien, j'ai posé la question à un serveur qui ne m'avait pas contrôlé. Entre 2 commandes, il s'explique plateau sur la main.
Effectivement, on le faisait plus au début, mais là, on manque de temps énormément parce qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment en soirée que c'est plus difficile.
Donc là, par exemple, ce soir, vous contrôlez pas grand monde ?
Je dirais 20-30%. Je pense que ça vient de la lassitude, surtout.
Une lassitude que confirme Camille, barmaid.
On en a aussi marre. Quand on a un travail où on doit à la fois garder le sourire, servir les clients, préparer les commandes, ça nous rajoute encore plus de travail. Et au bout d'un moment, on n'est pas là que pour faire du contrôle de passe sanitaire.
Et tous les deux confient qu'ils n'ont jamais été contrôlés par la police.
L'enquête de la brigade RTL signée ce matin, Nathan Bocard.
Et je vous rappelle que l'intervention du président de la République sera à suivre ce soir à 20h sur RTL et elle sera suivie d'une édition spéciale avec Julien Cellier et ses invités. Jean Castex, lui, sera en Haute-Marne, à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition.
Un pèlerinage habituel de la classe politique tous les 9 novembre. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Vous êtes sur place à quelques mètres du lieu où est enterré le général. Pèlerinage habituel, je le disais, mais avec cette année un enjeu particulier à 5 mois de l'élection présidentielle.
Eh oui, à tel point que les politiques seront peut-être plus nombreux que les touristes aujourd'hui. Anne Hidalgo accompagne le Premier ministre. La photo souvenir des 5 candidats LR main dans la main se fera en début d'après-midi. Puis ce sera au tour de Florian Philippot et de Nicolas Dupont-Aignan. À la préfecture, je peux vous dire qu'on s'est arraché les cheveux tard hier soir pour que tout ce petit monde ne se croise pas. En tout cas, ce défilé laisse perplexe Yves et son papa, deux nostalgiques du général, venus se recueillir dans le minuscule cimetière.
Maintenant, il ne viendra pas pour nous sortir de la mouise. Maintenant, c'est fini. Mais c'était le seul qui était capable de... Il l'a prouvé.
Je pense que personne ne peut revendiquer l'héritage du général de Gaulle. Ça fait partie du processus démocratique d'être vu ici. On connaît son dégoût pour le régime de Vichy, et son aversion vis-à-vis du maréchal Pétain. Donc Marine Le Pen n'a rien à faire ici.
Éric Zemmour non plus n'est pas le bienvenu. Marine Le Pen, elle, rendra quand même hommage au général. Elle prononcera un discours Place de Gaulle à Bayeux dans le Calvados, à l'endroit où le général de Gaulle s'est exprimé en juin 44 après le débarquement.
Vincent Derosier du service politique depuis Colombey, les deux églises pour RTL.
Vivre à côté d'une éolienne peut être une source de désagrément. Le tribunal a tranché, un couple du Tarn vient d'obtenir plusieurs milliers d'euros. Leur histoire dans un instant, vous allez voir, ça se passe quand même beaucoup dans la tête. Il est 8h09, à tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une décision de justice qui risque d'ouvrir la voie à de très nombreuses actions en recours.
Après 6 ans de procédure judiciaire, Christelle et Luc, un couple de Belges installés dans le Tarn, vient d'obtenir réparation. 128 000 euros de la part de 2 sociétés exploitantes d'éoliennes situées à quelques centaines de mètres de leur propriété. Le tribunal a estimé qu'il y avait bien préjudice. Patrick Tégéraud, vous avez rencontré ce couple.
Christelle a d'abord tenu à nous emmener au pied des éoliennes à 700 mètres de sa maison, soit 200 mètres de plus que la distance minimale.
C'est chaque fois en fait que la pale passe devant le mât, c'est la compression d'air qui fait chaque fois ce bruit. Et ce qui est perturbant, c'est régulier et ça n'arrête jamais.
De retour chez elle, le bruit est plus feutré, mais toujours lancinant. Et la souffrance s'installe et s'amplifie avec le temps.
C'est les agressions visuelles, les flashs, il y a le bruit audible, il y a les basses fréquences, le bruit non audible. Au début, tu ne comprends pas, bon, je ne me sens pas bien. Première chose, tu dis, bon, ça va être mieux demain. Tu as des vertiges, tu dors mal, tu ne dors plus du tout, tu as des acouphènes jusqu'à tomber dans les pommes. Tous les deux, on a été admis aux urgences et c'est là que tu dis, stop, il faut qu'on se barre d'ici, on ne peut plus quoi.
Christelle et son mari Luc ont dû partir en 2015 pour louer une maison à 17 km de là, au calme. L'indemnisation comprend le coût de la location, la perte de valeur de leur maison et bien sûr le préjudice moral et physique.
Un reportage signé Patrick Tégéraud. Le choc à l'hôpital Saint-Louis à Paris après qu'un agent a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. La scène a eu lieu hier en fin de matinée. Plusieurs de ses collègues ont assisté à cette tentative de suicide. Grièvement brûlé, son pronostic vital est engagé. On ignore pour l'instant les raisons de son geste. À l'étranger, ces vives tensions à la frontière entre le Bélarus et la Pologne où se sont amassés des centaines de migrants venus du Moyen-Orient et qui souhaitent désormais traverser la frontière. Les images sont impressionnantes. L'Union européenne accuse le président bélarusse Loukachenko d'avoir organisé cet afflux en représailles aux sanctions de Bruxelles suite à la répression brutale exercée dans le pays.
Et puis aux États-Unis, une histoire d'échange de bébés qui rappelle étrangement un film bien connu.
Oui, deux enfants élevés dans des familles qui n'étaient pas les leurs avant que les parents ne s'en rendent compte. L'histoire cette fois se passe en Californie et c'est à la maternité au moment de procéder à des fécondations in vitro que les deux embryons Karine Hutton ont été mélangés.
Oui, ses jeunes parents auraient pu ne jamais se rendre compte de l'échange, mais la petite fille mise au monde en septembre 2019 avait une peau bien plus mate que la leur, ne leur ressemblait absolument pas, et cela leur a mis la puce à l'oreille. Ils ont bien sûr continué à élever le bébé, mais ils ont fait un test ADN 3 mois plus tard pour en avoir le cœur net. Le choc de la nouvelle a été très dur à encaisser, mais le couple a été un peu rassuré lorsqu'il s'est rendu compte que l'inversion avait été directe, que leur fille biologique était en fait née dans la famille même de la petite fille qu'ils avaient commencé à élever. Les nourrissons sont revenus dans leur foyer respectif en janvier 2020, mais cela n'a pas tout réglé. Les parents racontent les traumatismes, celui de ne pas avoir pu porter leurs enfants biologiques pour les mères, celui du doute pour les pères. Les deux couples sont en tout cas restés en contact et passent encore des moments familiaux ensemble. Ils partagent surtout maintenant le même avocat.
Un récit signé Karine Hutton, correspondant de RTL aux États-Unis. Et puis je vous signale pour terminer cette panne d'alimentation sur le réseau SNCF à Toulouse. Résultat, trafic très très perturbé ce matin dans toute la région.
Merci beaucoup. Le journal nous était proposé par Dominique Tenza. Je vous retrouve à 9h.
Évidemment.
Pour le point de l'actualité. Et dans un instant, on va surfer avec Cyprien Sini.
On va à Colombé.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Il est 8h18, Cyprien, vous surfez ce matin avec cette journée hommage au général de Gaulle.
51 ans, jour pour jour après sa mort, route de Colombey les deux églises. Et il y a du monde, ça bouchonne sévère pour honorer la mémoire du général à... Ah non, c'est rien, c'était le minibus des Républicains, ils arrivent par une voie réservée. Bref, De Gaulle mangeait à toutes les sauces en cette année de campagne électorale. En fait, c'est peut-être lui hein, qui est le plus présent sur les ondes.
Du général De Gaulle.
Le 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 général De Gaulle.
De Gaulle.
De Gaulle.
Les cons De Gaulle parlent en français, ils reconstruisent leur cathédrale.
Mireille. Ça doit être ça en fait, elle a raison Mireille Mathieu. De Gaulle, ça rassure, ça rassemble de Marine Le Pen.
Le général De Gaulle lui disait jamais « je suis de droite ». Jamais.
À Jean-Luc Mélenchon.
Le général de Gaulle a fait le choix de l'indépendance dont je me réclame.
Tous les l'échiquier politique s'en revendiquent au moins un petit peu. Mais il y a surtout, hein, cette manie assez récente, faut bien le reconnaître, de l'invoquer et de le faire parler à tort et à travers sur tous les sujets, le pauvre général qui n'en demandait pas tant. Prenez Éric Zemmour dimanche.
Vous imaginez le général de Gaulle défendre les valeurs du LGBT?
Ah bah on peut tout imaginer. Hein. Bon, alors peut-être pas défendre Pétain quand même, hein, mais le reste, c'est sans limite. Hein. Tenez Florian Philippot qui balance.
Vous imaginez le général de Gaulle intervenir sur une quenelle?
Mais oui, de Gaulle sur les quenelles de Dieudonné. Allons-y. On a quoi d'autre en magasin? Ah bah tiens, Manuel Valls.
Vous imaginez le général de Gaulle employant Tante Yvonne à l'Élysée.
Ben voyons. Et Nicolas Dupont-Aignan alors?
Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle se faire payer par un ami des costumes à 6000 euros?
Ah bah tiens, si on ressortait ce bon vieux François Fillon, puisqu'on en parle.
Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen?
Ah, c'est vrai que celle-là, a posteriori, elle fait mal quand même. Même les Verts et Yannick Jadot l'invoquent.
Est-ce que vous imaginez Madame de Gaulle accepter un contrat d'emploi fictif financé par l'ensemble des contribuables?
Je dis ça comme si je la connaissais.
Bah oui, enfin, laissez Madame de Gaulle tranquille. En tout cas, dans toutes ces invocations, il y en a une qui nous laisse encore songeurs. Et là, si vous avez la réponse, ça vaut cher, attention.
Voici la question qui vaut 1 million d'euros.
Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon?
Je vais appeler un ami. J'ai appelé David.
Ouais, mais alors si David il sait, hein, parce que nous, De Gaulle, Amazon, Jeff Bezos, on sèche un peu. En attendant, 51 ans après, De Gaulle fait causer, et comme il le disait lui-même, pour de bon ce coup-ci.
J'espère, je crois, je sais qu'elle va triompher grâce à vous. Vive la République, vive la France.
Vive la France.
Ouais, en fait, De Gaulle, c'est un peu la France quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que tout le monde veut en récupérer un peu. Et vive la France surtout. Hein.
Vous allez retrouver cette chanson.
Stone. Mais oui, Stone, extraordinaire.
Merci beaucoup Cyprien. Rendez-vous ce soir dès 18h40 avec votre équipe pour défaire le monde.
L'info autrement, c'est ce soir.
A tout à l'heure.
RTL Matin.
Le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h21, nous retrouvons notre invité. Bonjour Daniel Ball.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la banque CIC. Vous venez ce matin sur RTL nous annoncer une grande nouvelle au sujet des crédits à la consommation. Vous demandez la fin du questionnaire médical et des discriminations de santé lorsqu'on demande un crédit. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. On s'est rendu compte, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, qu'il y a aujourd'hui une vraie discrimination par rapport à tous les malades, à tous les malportants. Et c'est une discrimination qui est invisible et qui est celle du questionnaire de santé, des formalités médicales avant d'obtenir un prêt. Aujourd'hui, il y a un dispositif lorsqu'on veut un prêt immobilier qui est de le garantir par une assurance emprunteur pour permettre à la banque de faire son métier, mais aussi pour bien protéger la famille de l'emprunteur. Et en même temps, il faut remplir un questionnaire de santé. Et là, on se rend compte que si on a été malade ou si on est malade, on a soit un risque de payer une surprime importante,
bien sûr,
soit carrément d'exclusion, ce qui empêche donc l'accès au crédit et par conséquent l'accession à la propriété. Et au Crédit Mutuel et au CIC, nous voulons au contraire favoriser l'accession à la propriété pour tous.
Dit autrement, est-ce que vous demandez à la Banque de France et à l'État d'interdire ces questionnaires que l'on doit remplir chez le banquier quand on veut emprunter de l'argent?
Non, c'est pas nous le législateur. Nous, on prend une initiative qui est cohérente. Nous sommes une banque mutualiste, entreprise à mission. Nous voulons véritablement montrer que l'engagement que nous prenons en faveur de nos clients et en faveur de la société est une réalité. Maintenant,
donc vous l'appliquez à vous-même dès aujourd'hui?
Nous l'appliquons dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, y compris pour les contrats en cours. C'est-à-dire que nos clients qui aujourd'hui payent une surprime ne la payeront plus à partir du 1er décembre. Mais nous l'appliquons aujourd'hui pour nous. Mais évidemment, ce que nous faisons, si demain ça donne de bonnes idées à tous nos confrères, nous en serons ravis pour l'ensemble des malades, pour l'ensemble de ceux qui ont été malades. Je pense notamment à ceux qui ont eu un cancer il y a quelques années et qui aujourd'hui ont un vrai problème d'accès au crédit pour l'accession à la propriété.
Concernant le CIC et le Crédit Mutuel, est-ce que ça fait un grand nombre de vos clients qui sont concernés par ces contrats?
Aujourd'hui,
par ces clauses, en fait, pour dire d'une certaine façon.
Par les clauses, voilà. Oui, bien sûr.
Vous avez évalué, vous, le nombre de personnes qui sont concernées chez vos clients?
En tout cas, je n'ai pas évalué le nombre précis. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous faisons à peu près 300 000 prêts par an, que les prêts immobiliers concernés seront limités à 500 000 euros. Donc ça fait 97% en fait de notre production, de nos clients qui sont concernés. Le fait de supprimer cette surprime amènera une perte de revenus qui pourrait, d'après les calculs qu'on a faits, aller jusqu'à 70 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment conséquent. Aujourd'hui, clairement, le jeune bien portant n'a pas de problème. Ce que nous visons surtout, c'est permettre également l'accès à la propriété, au quadra, au quinca, qui ont déjà, dans leur vie, pu avoir des problèmes de santé.
Mais ces 70 millions qui vont manquer, vous les récupérez où?
mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie démarche vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos clients. Ça concernera nos clients fidèles, c'est-à-dire qui domicilient
leur vie. Les banquiers ne sont pas devenus des philanthropes du jour au lendemain.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise à mission. Le CIC est une entreprise à mission. Donc, on a effectivement fait le choix de développer notre entreprise. Évidemment, nous avons des obligations en termes de résultats. Mais en même temps, on a fait le choix de prendre un certain nombre d'engagements pour bien montrer que nous sommes une banque mutualiste, une banque différente qui est aux côtés de nos clients, mais qui milite également. C'est une démarche militante que nous faisons pour protéger justement les malades et ceux qui ont été malades.
D'où est venue cette idée? Et j'ai envie de vous dire, qu'y a-t-il derrière? Ce n'est pas un mauvais procès à faire. C'est logique de vous poser la question.
Je ne l'entends pas. Je l'entends bien que ce n'est pas un mauvais procès que vous faites. Nous sommes entreprise à mission. Nous sommes la seule banque française aujourd'hui qui ait fait le choix d'être entreprise à mission. Le fait d'être entreprise à mission n'est pas un acte de communication. Cela nous engage fortement. Et puisque nous sommes engagés, nous voulons donner des preuves. Nous avons, il y a une quinzaine de jours, annoncé que nous arrêtons tout financement de projets dans les énergies fossiles, y compris conventionnelles. Nous annonçons aujourd'hui que nous prenons cette initiative pour protéger les malades et ceux qui ont été malades.
Je reviens sur les clauses. Est-ce que ça peut dépasser le simple cadre du questionnaire de santé? Je vous présente les choses autrement. Est-ce que si je fais du sport, certains sports peuvent être à risque? Est-ce que si je fume, on peut considérer que c'est une activité à risque? Concerné.
Le sport à risque ne sera pas pris en compte. Par contre, effectivement, le fait d'être fumeur ou non fumeur, ça fait partie des déclarations qui sont à faire et qui ne changent pas. Notre sujet, c'est la maladie, avoir été malade ou être malade aujourd'hui. Les grilles de tarification prennent bien entendu en compte l'âge, l'activité exercée et le fait d'être fumeur ou non. Mais ça, c'est la base. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, si vous êtes fumeur et que vous n'avez jamais eu de maladie, bon, ça va, vous en sortez encore avec un tarif correct. Par contre, si vous avez été malade, il y a même 2 ou 3 ans, c'est là que la surprime vient. Et dans certains cas, certaines maladies amènent même l'exclusion. Et c'est cette exclusion qui sera plus possible. Si quelqu'un, pour prendre un exemple très simple, a eu un accident cérébral il y a 15 jours ou un mois, il vient aujourd'hui nous demander un prêt de jusqu'à 500 000 euros pour sa résidence principale. Il sera assuré sans aucune difficulté parce que nous ne le demandons pas du tout de renseignement médical.
Donc l'exclusion pour raison de santé disparaît de tous les contrats jusqu'à 500 000 euros.
Pour les prêts pour la résidence principale.
Pour les prêts pour la résidence principale.
Absolument.
C'est une idée que vous aviez de longue date?
Non, ce n'est pas une idée qu'on avait de longue date, mais nous avons opté pour le statut d'entreprise à mission il y a près d'un an. Et depuis, dans les travaux que nous avons avec nos élus mutualistes, avec les cadres dirigeants, avec notre président Nicolas Théry, on a cherché un certain nombre de points qui peuvent vraiment marquer notre différence et montrer que nous faisons avancer la société, car c'est effectivement ce que nous voulons faire en tant qu'entreprise à mission.
Merci beaucoup Daniel Ball. Je rappelle que vous êtes directeur général de la banque CIC et que vous venez donc nous annoncer cette nouvelle concernant les crédits à la consommation qui ne seront plus soumis à des questionnaires de santé jusqu'à 500 000 euros sur la résidence principale dans votre banque. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous.
Merci d'avoir pris la parole sur RTL. Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin. Et toutes nos assurances.
RTL Matin.
Il est 8h31, la météo à 7 jours. Louis Baudin, allez hop, c'est parti.
Elle n'attend pas.
Moi, exactement. J'aime bien le temps d'automne parce qu'il se passe tout le temps quelque chose.
Oui, oui. Alors même si là, on a l'anticyclone qui vient un peu nous protéger des perturbations. Donc au moins jusqu'au week-end, voire plus loin, nous entrons dans une période anticyclonique. Donc ça veut dire qu'on aura du temps sec, sûrement des brouillards, des gelées le matin et l'espoir d'avoir de belles éclaircies l'après-midi. Alors pas partout. Certains me diront, ah oui, moi j'ai pas vu les nuages se lever ou les brouillards vont persister. Mais globalement, donc du temps sec avec des éclaircies l'après-midi, sauf tout près de la Méditerranée. Ah. Pour une fois, c'est là où on aura de l'instabilité. Déjà aujourd'hui sur la Corse, la Côte d'Azur. Demain, c'est tout ce quart sud-est qui sera sous l'influence d'un temps perturbé sur la Méditerranée. Donc des nuages, de la pluie, du vent fort, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse. Un petit peu de neige en montagne sur les Alpes du Sud ou encore sur les Pyrénées orientales. Ce sera la même chose pour la journée de jeudi. Et puis ensuite, eh bien, cet anticyclone va s'étaler tout au long du week-end sur toute la France. Vous avez parlé d'un petit peu de neige, d'un temps un peu perturbé peut-être dimanche. Ben, je repousse. L'anticyclone a l'air d'empêcher tout retour de cette humidité. Donc, ben voilà, c'est le scénario, c'est classique. C'est des brouillards, des gelées le matin, l'après-midi de belles éclaircies, des températures autour de 10 degrés dans la moitié nord, 15 degrés dans le sud. Et puis ça, ben, j'ai l'impression qu'on peut le prolonger jusqu'en début de semaine prochaine.
Oui, bon, l'anticyclone s'impose, voilà. Et stabilise un petit peu la situation.
Exactement. Un temps assez stable pour ces prochains jours.
Merci beaucoup Louis Baudin, je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h32, merci d'écouter RTL.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde s'arrête ce matin aux États-Unis. Bonjour Karine Otten.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui viennent à nous, puisque la vice-présidente américaine Kamala Harris entame une visite de 4 jours en France. Elle vient essayer de réparer les relations franco-américaines suite à l'épisode des sous-marins. Kamala Harris surtout collectionnait les premières depuis janvier dernier. Première femme, vice-présidente, première personne issue des minorités à ce poste. Elle symbolisait beaucoup d'espoir. 10 mois plus tard, où en est-on, Karine ?
Eh bien, selon les sondages, la lune de miel est bien terminée. Kamala Harris rassemble 38% d'opinions favorables contre 49% d'opinions défavorables. Comment expliquer cela ? Tout d'abord, le rôle de vice-président est assez ingrat car il est très limité ici. On voit très souvent Kamala Harris derrière Joe Biden, mais elle est masquée et immobile, bien loin des attentes du public. Et puis Kamala Harris est aussi la cible favorite des républicains qui ont mis en place très vite un travail de sape qui fonctionne. Enfin, elle est issue de la frange modérée des démocrates et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas convaincu en 10 mois les plus progressistes comme Teddy qui est afro-américain à 20 ans et a voté Biden-Harris l'an dernier. Il est assez désillusionné.
Avec Kamala, on a entendu beaucoup parler d'un impact, d'un changement culturel, mais on ne voit pas grand chose. Elle a joué la carte afro-américaine, la carte femme, celle des minorités qu'elle voulait rassembler, pour finalement ne pas les servir. Elle ressemble à l'une des nôtres, donc elle pensait avoir un avantage. Mais finalement, c'est toujours la même chanson avec ceux qui nous dirigent. Si elle était plus libre de ses décisions, elle réaliserait plus de choses pour les gens qu'elle fréquentait auparavant. Mais ce système à deux parties fait bifurquer les souhaits de ceux qui nous dirigent parfois.
Alors Carrie, Kamala Harris avait été chargée d'un dossier en particulier par Joe Biden, celui de l'immigration.
Oui, un dossier explosif, hein, car l'administration Biden voulait à la fois se démarquer de l'administration Trump et du mur construit à la frontière mexicaine, et à la fois refuser de voir la frontière sud prise d'assaut, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et là, Kamala Harris a fait une erreur stratégique. Elle n'a pas été sur place. J'ai rencontré tout à l'heure Sandy, qui est texane justement, et clairement Sandy aurait préféré que la vice-présidente prenne un vol intérieur direction le sud, plutôt qu'un vol pour Paris.
Nous sommes vraiment dans le pétrin à la frontière, en Arizona, au Texas. Des milliers de gens qui traversent chaque jour. Sans être vaccinés, ils ne sont pas citoyens américains. Ça n'était pas comme ça l'an dernier, disons juste ça. Non, elle n'est jamais venue à la frontière. Elle a été au Guatemala, mais c'est tout.
Et au Mexique.
Oui, bon, c'est quasiment au même endroit. Mais elle n'est pas venue à notre frontière, ni à celle de l'Arizona. Mais peut-être qu'elle viendra. Il faut absolument qu'elle voie ce qui se passe.
Mais alors du coup, Carrie, ces 10 premiers mois effacent-ils le symbole, le progrès social que sa nomination a représenté ?
Pas pour tout le monde. Certains Américains reconnaissent qu'il faut laisser un peu de temps. D'autres appellent que le programme de l'administration Biden est bloqué à Washington, soit par le camp adverse, soit par des dissensions entre démocrates. Il est certain que Kamala Harris ne parvient pas plus que Joe Biden à rassembler les Américains pour l'instant. Mais j'ai rencontré Liz, qui a des origines indiennes. Pour elle, cette accession historique restera un acquis, quoi qu'il en soit. Et même si le niveau de la politique américaine ne lui plaît pas en ce moment.
Alors on verra dès ce matin si Kamala Harris, en tout cas, remporte plus de succès auprès des Français. Sa première visite, tout à l'heure, c'est à l'Institut Pasteur, où elle ne devrait pas manquer de rappeler que sa mère était chercheuse en cancérologie. Merci beaucoup Karine Otten, RTL aux États-Unis. Dans un instant, retrouvez Isabelle Choquet pour la face cachée de la Une.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h38 ce matin, Isabelle Choquet, retour sur l'affaire PPDA. 8 femmes témoignent aujourd'hui dans Libération.
Et 8 femmes qui prennent la parole parce qu'elles ont été choquées que le dossier soit classé sans suite après la plainte de Florence Porcel. Le 24 juin, le parquet de Nanterre a clos le dossier. Il y a pourtant de la matière. 22 femmes accusent Patrick Poivre d'Arvor. 11 ont porté plainte pour viol, agression ou harcèlement sur une longue période allant de 1985 à 2015. Des faits souvent prescrits. Libé a pu consulter les procès-verbaux. Voici ce qu'il en ressort et je vous conseille d'éloigner les enfants. Ce qui frappe d'abord, c'est que les témoignages se recoupent. Les histoires se ressemblent tellement qu'on pourrait parfois les superposer, écrit Libé. Il y a d'abord la manière dont le journaliste aborde les femmes, au téléphone ou en direct, avec des questions très intimes, très intrusives. Êtes-vous en couple? Êtes-vous fidèle? Êtes-vous heureuse dans votre vie sexuelle? Quand avez-vous fait l'amour pour la dernière fois? Êtes-vous nue? Ça se passe comme ça dès le premier échange, d'une voix qualifiée de doucereuse, mielleuse ou enveloppante, selon les récits. Ensuite, il y a le passage à l'acte, selon un procédé apparemment bien rodé. PPDA avait l'habitude d'inviter des femmes à assister à son JT plusieurs fois par semaine. C'est ce qui est arrivé à Amélie, enseignante, au début des années 90. Après le journal, elle a été conduite dans le bureau du présentateur. PPDA est arrivé, dit-elle. Il m'a dit « Bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir ». Et il s'est assis à son bureau. Puis, il s'est levé très vite. Il s'est mis devant moi, il a enlevé sa ceinture, il a baissé sa braguette et il m'a dit « J'ai été très stressée par ce journal. Vous me faites une petite gâterie avec une petite moue d'enfant qui veut sa récompense », dit-elle. Amélie a refusé. Bon, dans ce cas-là, au revoir, mademoiselle. Pas de considération, pas de séduction, c'est ce qui revient en boucle, jusqu'à l'abus de faiblesse. Ça, c'est ce qu'a vécu Stéphanie Kayat, violée, dit-elle, dès sa première rencontre avec PPDA, fin 94. Elle postulait pour travailler sur son émission Place au Livre. Rendez-vous dans le bureau, une fois de plus. Je ne l'entends pas s'approcher, dit-elle. Il me retourne brusquement, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche. Je ne suis pas là depuis 10 minutes. Ça a été brusque, soudain, rapide. Je pesais 30 kilos, j'étais anorexique, il était impossible de ne pas le voir. Ce qui se dessine au fil des témoignages, c'est un véritable système que dénonce Muriel Réus, ancienne cadre du groupe TF1. Elle affirme qu'elle a subi, elle, une tentative d'agression sexuelle et qu'elle a averti le PDG de TF1 dès le lendemain. Selon elle, avant même de connaître les détails, Patrick Lelay a répondu « Ah, il a osé aussi avec toi ». Cécile Timoreau, elle, aurait été victime d'une agression chez Patrick Poivre d'Arvor. Elle raconte qu'elle a immédiatement prévenu le directeur de la rédaction, Robert Namias. Il aurait répondu « Ah, il fait chier, je m'en occupe ». Aujourd'hui, il assure qu'il n'a aucun souvenir d'une telle conversation. Patrick Poivre d'Arvor, lui, a été entendu le 18 mai par la police judiciaire. Il a rejeté l'ensemble des accusations, mais il ne nie pas au sujet des questions intimes. Je pense que c'est la moindre des élégances de demander à une personne qui vous plaît si elle est libre ou pas, dit-il. Pour le reste, il explique, ces femmes ont certainement lu ce qui a été dit dans la presse. Il est possible que certaines se soient engouffrées dans la brèche. Certaines m'en veulent peut-être de les avoir oubliées. Poivre d'Arvor, que Libé a aussi contacté, il a répondu par écrit en soulignant que toutes les plaintes avaient été rejetées. Et à propos de cet article, il dénonce donc une tentative de contournement médiatique d'une décision judiciaire. Le système PPDA, c'est une grande enquête et de grands témoignages à lire dans Libération.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve demain matin.
À demain.
Bonne journée à vous.
RTL, vous êtes comme ça.
Et nous vous emmenons ce matin à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris. Ils sont coiffeurs, forgerons ou encore cuisiniers. Ils sont des travailleurs issus de l'immigration africaine. La ville les accompagne à développer leurs activités hors des foyers où ils résident. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à Montreuil, les tailleurs viennent justement d'ouvrir un atelier de couture.
Oui, c'est un petit local au mur nu, au pied d'une barre d'immeubles proche du centre-ville. Des morceaux de tissu colorés dépassent des armoires, quelques tables pour travailler devant une grande baie vitrée. Concentré, Youssouf est assis face à sa machine à coudre.
Il t'a fait un grand boubou. On fait les robes, on fait les jupes, on fait tout. Il est le client qui a ramené le tissu. 10 euros. Il y en a qui 5 euros. C'est pas beaucoup.
Depuis cet été, Youssouf crée ici des vêtements, coud des draps et des rideaux. Il est agent de nettoyage la nuit, tailleur le jour.
Moi, la nuit, je travaille la nuit. Je commence à 23h, 6h. Je vais aller dormir chez moi jusqu'à 14h, 15h. Je reste là jusqu'à 8h. Ça me plaît beaucoup. Tous les jours, je gagne 5 euros pour ma famille. Je suis très content. Qui ne travaille pas, qui va payer le loyer?
De nationalité malienne, il a appris ce métier enfant dans son village il y a une trentaine d'années.
J'ai un ami qui m'a appris la couture. Bon, et j'ai commencé petit à petit. Parfois, il donnait les machines. Fais ça, fais ça, fais ça. J'ai venu à Bamako. J'ai fait 3 ans à Bamako. Voilà, bien, j'ai venu en France et je continue.
Et dans le quartier, les clients se bousculent.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, bah, je viens chercher ma sacoche.
Jérôme a été attiré par les prix proposés.
Je préfère faire travailler des commerçants locaux que des grandes enseignes. Hein. Puis le service est soigné. Très bon marché, hein. 10 euros.
Il y a quelques mois, Youssouf travaillait encore au sous-sol d'un des nombreux foyers migrants de Montreuil.
Oui, ces résidences hébergent depuis les années 60 des générations d'hommes originaires d'Afrique de l'Ouest. Mais leur travail était souvent pratiqué de manière clandestine et les locaux n'étaient pas aux normes. Alors, chaque semaine, Sini, un bénévole, aide Youssouf à développer ici ses activités.
Moi, je les aide à plutôt faire des comptes, les dépenses et puis les recettes. C'est noté.
Moi, je ne connais pas beaucoup de choses. C'est lui qui connaît bien pour un travail légal. Moi, je voulais travailler clair, pas à gauche à droite.
Aujourd'hui, le tailleur peut donc continuer à coudre des habits aux couleurs du Mali, ce qui rend très fier sa communauté.
Vous savez qu'il venait d'un pays à laquelle il y a 150 dialectes. Chaque dialecte a son mode de vie, a son propre habit. Je lui dirais chapeau. Avant, il le faisait dans sa chambre. Et après, petit à petit, il a monté une association de tailleurs de Montreuil. Leur talent a payé. Et fait croire à chacun que si on veut, on peut réussir.
Ça me plaît beaucoup. Bon, j'ai 54 ans maintenant, à bientôt. Moi, je continue mon métier jusqu'à la mort. J'étais fait un grand boubou.
Depuis 2 ans, la ville de Montreuil accompagne ses travailleurs migrants. Halima Menouj est adjointe au maire.
La plupart de ces artisans ont appris ce métier au pays. C'est des métiers qui sont transmis de père en fils. Et donc l'idée, c'est de maintenir tout ça pour que ça vive ici, que ça se raconte, il y a une histoire. C'est formidable, c'est un petit bout de l'Afrique à Montreuil.
Après les tailleurs et les forgerons, les coiffeurs africains doivent prochainement ouvrir leur propre salon à Montreuil.
Merci beaucoup Nicolas Burnand. Vous êtes comme ça est à retrouver sur RTL.fr. Alors, deux rendez-vous qui nous réjouissent d'ores et déjà sur l'antenne d'RTL dans quelques instants. Laurent Gérard et toute son équipe et ensuite Monsieur Lignac et sa recette du jour. Voilà, suffit.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Le président de la République s'adressera aux Français ce soir dans une allocution télévisée qui devrait être consacrée à la crise sanitaire. Voyons comment il s'y prépare avec son Premier ministre Jean Castex. Nos micros, bien sûr, sont à l'Élysée.
Entrez. Oh, vous m'apportez mon pif gadget, déposez-le sur mon bureau. Mais enfin, Emmanuel, je ne suis pas le garçon d'étage. Je suis Jean Castex, votre Premier ministre. Et ça, c'est pas pif gadget, c'est le dossier préparatoire à votre allocution de ce soir sur l'ORTF.
Ouais, l'autre, il parle encore de l'ORTF et de la housse, tu crois que c'est Roger Giquel ?
Roger Giquel, très bonne idée. Commencez votre allocution radio-télévisée par « La France a peur ».
Ne te casse pas, Jeannot. Je sais ce que je vais dire. Je vais rendre obligatoire la troisième dose pour les plus de 65 ans. Et tu seras le premier de cordée. Allez hop, tu te mets en caleçon, chaussettes, et on va te piquer devant les caméras.
Mais enfin, je n'ai pas 65 ans en responsabilité. En responsabilité, je n'en ai que 56.
Ouais, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Allez, le vieux enlève ta chemise. Il y a Véran qui arrive avec sa picouse.
Pas la picouse, pas la picouse.
Arrête de bouger comme ça, on va pas réussir à te viser.
Aïe, ouïe, aïe, aïe, aïe.
Et voilà, la troisième dose, parce que c'est mon projet.
En pleine guerre de l'audience entre chaînes d'information, LCI essaie de faire la différence grâce à son émission politique Les Experts à Paty, oui, oui, animée par son éditorialiste vedette Jean-Michel Apathy.
Bonjour et bienvenue dans Les Experts à Paty, la confrontation sans concession et sans langue de bois avec celles et ceux qui n'ont pas peur d'affronter un journaliste aguerri et déontologiquement irréprochable.
Ah oui.
Merci. Aujourd'hui, je reçois la première magistrate de Paris et néanmoins candidate à la présidentielle pour le Parti Socialiste en la personne d'Anne Hidalgo. Madame la maire, bonjour.
Monsieur Apathy, votre question est complètement débile.
Permettez-moi, Anne Hidalgo, de vous faire part de ma surprise légitime, oui, puisque, sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas encore posé de questions.
Mais je sais que vous allez encore me parler de ce guignol d'Éric Zemmour.
Là encore, madame Hidalgo, il s'agit d'un procès d'intention caractérisé, puisqu'en l'occurrence, je comptais vous interroger sur votre discours dont on dit qu'il se radicalise pour essayer de conjurer les mauvais sondages.
Les sondages sont truqués. J'ai des millions de soutiens.
La déontologie la plus élémentaire me contraint à vous demander où sont tous ces soutiens dont vous nous gargarisez, Anne Hidalgo.
Mes soutiens sont partout dans Paris. Ils sortiront le moment venu si je leur joue de la flûte.
Assez de tergiversations dilatoires et en berlificoté. De quelle espèce de flûte parlez-vous donc, Anne Hidalgo ? Et qui sont ces mystérieux soutiens ?
Bon, je vais les appeler, ils viendront et vous les verrez.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est une horreur. Avec votre heure de flûte, vous avez fait venir sur mon plateau tous les rats de la ville de Paris.
Si je suis élue, les animaux auront le droit de vote.
C'est aberrant, c'était Les Experts à Paty. Je vais devoir grimper sur mon tabouret en attendant la pause publicitaire. C'est aberrant.
La COP26 de Glasgow va s'achever sur un bilan que beaucoup jugent insuffisant. Allons voir comment on aborde ces questions de changement climatique dans nos campagnes avec quelqu'un qui les connaît bien, notre ami Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre.
Eh ben bonjour ma petite Jade. Eh oui, pendant qu'on se dispute dans les sommets internationaux partout dans nos régions, ces belles régions que faisaient mon temps, on se mobilise déjà face aux grands dérèglements climatiques. Direction Sainte-Vérus sur le cul en Vendée, un petit bourg qui est menacé chaque hiver par la montée de sa rivière, le cul. Eh bien, à Sainte-Vérus, le maire a décidé de bâtir une digue de 40 km de long sur le cul qui ira de Nantes à Montaigu.
De Nantes à Montaigu, la digue. La digue ?
Eh oui, ma petite Jade. Oui. De Nantes à Montaigu, la digue du cul.
Un très beau projet, Jean-Pierre. Ah oui,
mais ce n'est pas tout, car partout en France, des personnalités émergent pour lancer des alertes climatiques. Alors maintenant, on va prendre la direction du parc naturel des Cagoles, dans la Drôme provençale, où une voix s'élève pour tirer la sonnette d'alarme. C'est celle de Greta Thunberg.
Greta Thunberg, vous êtes sûr?
Oui, ma petite Jeanne, Greta Thunberg, c'est le surnom d'artiste de la présidente de la FFFF.
La FFFF ? De quoi s'agit-il exactement ?
La Fédération Française des Femmes Fontaines, une espèce...
Non.
Une espèce rare, dont...
C'est pour ça qu'il est toujours en tongue.
Non, rajoutez pas, monsieur Calvi, écoutez.
Une espèce très rare, dont on parle trop peu dans les médias. Mais oui, il n'y a que Éric Zemmour. Et qui est menacée d'extinction à cause des épisodes de canicule qui se multiplient, ces pauvres femmes fontaines. C'est pourquoi... Greta vient de lancer un ultimatum aux grands de ce monde réunis à Glasgow. Si rien n'est fait, les femmes fontaines seront à sec d'ici 2030.
C'est noté, merci Jean-Pierre.
Une revendication légitime qui, on l'espère, entraînera aussi une revalorisation du prix à la pompe.
Oui, merci, merci Jean-Pierre. Que ces notes de piano annoncent notre ami André Manoukian.
Ah, t'es vraiment fabuleuse, Jeanne. tu sais, avant tout le monde, tu domines ton sujet, c'est dingue. Mais parce qu'il y a ce piano, il est complètement désaccordé. Je crois que c'est depuis que Bernard Lehu a posé toute sa pile de bouquins de la rentrée littéraire dessus. Alors je ne lui dis pas merci, si, bémol.
D'accord, on se plaindra à Bernard Lehu plus tard. Oui. J'imagine que vous n'êtes pas venu nous voir pour ça, André.
T'as des fulgurances parfois qui me font transpirer de la moustache. Je suis venu te raconter l'histoire secrète d'une chanson. Tu sais que Stromae va sortir un nouvel album événement.
Bien sûr.
Tu vois qui c'est Stromae?
Bien, oui, merci.
Oui, André. C'est le chanteur belge qui pèse 12 kilos, qui a une dresse sur le côté et des pulls sans manches à jacquard.
Oui, bah merci, on le connaît.
Ouais, c'est bien décrit.
Je veux une description.
Ben, je vais te raconter. Je vais te raconter l'histoire secrète de son tube « Alors on danse ». Tu connais ?
Bah, « Alors on danse, la 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 ». Voilà, « Alors on danse, la la la, bien la, sûr, il y a des la la partout.
Ouais, c'est beau les paroles. Mm-hmm. Alors on danse, la la la. Mais c'est surtout ce qui est beau, oui. C'est ta voix. T'as une voix qui me défrise les poils du torse.
Oui, merci, on a compris. Merci.
Je t'assure, t'as le même vibrato qu'une Simca 1000 à 110 sur l'autoroute.
Oui. Racontez-nous plutôt l'histoire de Alors on danse.
Voilà. Oui, alors, ben Stromae, il était déprimé parce que sa mère lui avait cousu des manches à son pull. Alors du coup, pour se remonter le moral, il est allé au Mokumba Club dans la banlieue de Bruxelles, tenu par une ancienne de chez
Dodo quoi ?
Dodo la Saumure.
Ah, bah,
la Saumure.
Dodo la Saumure.
Mais dans la discothèque, en plus de la vieille Lulu, il n'y avait que trois poivrons, qui noyaient leur chagrin dans leur suze. Oui. Bref, il y avait une ambiance de ouf.
Et alors ?
Et bien Stromae, qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, il a dit, alors on danse. Ben voilà, alors on danse. Logique, c'est ça. La vieille a demandé, où ça ? Et Stromae a répondu, là. Mais comme la Lulu, elle était sourde comme un pot, il a répété, là.
Il y a beaucoup de là, André.
Oui. Et il avait sa chanson. Oui. Alors on danse. La.
Dites-moi, vous êtes sûr de l'authenticité de cette histoire ?
Non, mais ça me rappelle cette phrase de Gilles Deleuze. Oui. Le but de l'écriture, c'est de porter la vie à l'état d'une puissance non personnelle.
Ce qui signifie ?
Je sais pas, mais c'est hyper puissant. Oui.
Eh bien, merci à toute l'équipe sur cette dernière.
Oui. Vous nous motivez, on a donné là. La.
La, la,
la. La, 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 la matinale d'Yves Calvi.
Ça vous donne les poils. Hein.
Ouais, ouais,
ça vous
donne...
Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site RTL.fr et puis demain matin, même heure, même antenne.
Exactement. Voilà. À demain.
À demain. Et dans un instant, la recette de Cyril Lignac.
Avec un aïoli,
Alors ça, je vais vous dire, ça va être un délice. A tout de suite.
On va le dévorer,
voilà. Même Isabelle Morini-Bosque a faim ce matin. La vie est belle.
RTL, revivre ensemble. RTL Matin, Yves Calvi.
Cyril Lignac. Tony Viabron, en banlieue lyonnaise, il aimerait réaliser un aïoli et il a besoin de votre aide, notamment pour la cuisson des légumes. Comment les faire cuire parfaitement ?
Alors, déjà, un bon aïoli, c'est de l'ail écrasé, on monte une mayonnaise avec du jaune d'œuf, sauf qu'au lieu de mettre de l'huile d'arachide ou de pépins de raisin, on monte à l'huile d'olive, comme ça on a plus de goût. Voilà. Ensuite, pour cuire les légumes et les avoir tous en même temps, on commence toujours par les pommes de terre, comme ça on compte à peu près 20 minutes. On les épluche, on les coupe grossièrement. Ensuite, on ajoute 10 minutes les carottes. Comme ça, on cuit tout en même temps.
C'est mignon.
Et on termine par les haricots verts ou les sommités de chou-fleur. Et comme ça, on a notre bouillon de légumes avec tous les légumes à l'intérieur. Et bien entendu, si on veut faire un artichaut, on le cuit à part. Moi, j'adore ça, un gros artichaut. 1h30 de cuisson, tout doucement. Voilà. Et après, on met dans notre plat tous nos légumes. On dépose du cabillaud ou de la morue qu'on a cuit. Pareil dans ce petit bouillon. Une belle cuillère de cet aïoli. Et si on veut en faire un plat complet, on met des œufs durs au milieu de tout ça. Œufs durs, poissons, légumes, aïoli. Et le tour est joué.
C'est formidable. Et l'intégralité de la recette et tous ces détails sont sur le site RTL.fr. Merci.
À demain.
À demain matin. 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le rappel de l'actualité avec Dominique Tenzar.
Il est désormais dans un avion direction Houston au Texas où se situe le centre spatial de la NASA. Thomas Pesquet de retour sur Terre après 6 mois passés en orbite. La capsule Dragon s'est posée en mer très tôt ce matin. Il était 4h33 précisément. 120 gendarmes mobilisés dans le secteur de Château-Gontier en Mayenne ce matin, appuyés par un hélicoptère et des chiens. Un dispositif très large pour tenter de retrouver la jeune adolescente de 17 ans partie courir en forêt hier et qui n'a donné depuis aucune nouvelle. Emmanuel Macron pourrait rendre obligatoire ce soir une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans et les publics fragiles. Le chef de l'État qui s'adressera aux Français à 20h, allocution à suivre en direct sur RTL, édition spéciale à partir de 19h55. Forte tension aux portes de l'Europe alors que des centaines de réfugiés se sont massés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Bruxelles accuse le président bélarusse d'utiliser les migrants pour faire pression après les sanctions contre son pays décidées par l'UE. La classe politique attendue aujourd'hui en Haute-Marne à Colombelles-les-Deux-Églises pour commémorer l'anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Un pèlerinage rendu quasi obligatoire à 5 mois du scrutin présidentiel. Et puis le trafic des trains très perturbé ce matin à Toulouse et dans la région à la suite d'une panne électrique. La SNCF espère un retour à la normale dans la matinée.
Merci beaucoup.